Bienvenue dans la file d'attente.
Parc d'attractions et digressions, salut tout le monde, salut Guillaume.
Salut Louis et salut Seb Gainsbourg.
Bravo.
Bonjour.
C'est pas Halloween, hey, mais il est avec nous.
Ouais. C'est pas Halloween.
On l'a autorisé à sortir de son bureau Halloween pour venir nous parler d'autre chose exceptionnellement.
On l'a décongelé.
Ouais.
Et
il n'est pas tout seul.
Il n'est pas venu tout seul. Il est venu accompagné de Julien Simon.
Bravo.
Bonsoir.
La mascotte du podcast quelque part.
Ça faisait longtemps,
ouais.
Hein.
Ouais. Mon rond de serviette commençait à refroidir. Mais...
On se demandait.
Mais non, c'est bon. Il
Est-ce qu'on demande de très très rapide présentation pour les quelques nouveaux qui ne connaîtraient pas nos invités.
Qui sont-ils? Que font-ils? Quels sont leurs réseaux? Présentez-vous vous-même, tiens. J'ai la flemme. J'ai un énorme problème de flemme ce soir.
Je sens qu'il va être bien cet épisode.
Alors, c'est vrai que d'habitude, c'est...
Oui, c'est vrai.
Les salauds.
Alors, je suis Sébastien, je m'occupe de la com sur les réseaux sociaux à Europa Park, mais je suis pas là pour ça aujourd'hui, je suis aussi avant tout passionné de parcs d'attractions depuis aussi longtemps que je m'en souvienne.
Et je crois que c'est un peu la même chose pour Julien, finalement.
Non, on peut le dire.
Sauf pour les réseaux sociaux d'Europa Park.
Oui.
Ça ne marche pas.
Oui, bah déjà, je travaille pas à Europa Park. Je suis pas sur les réseaux sociaux. J'ai découvert Instagram il y a 2 ans, tu vois. me demande pas ce que c'est TikTok. Et sinon, bah, je travaille à la Compagnie des Alpes. Je suis master planner. Je conçois des attractions. Et voilà. Et je m'amuse.
Bravo à tous les deux. Est-ce que c'est la méga concurrence entre vous deux? Est-ce qu'on peut dire ça?
Est-ce que vous
mais
vous
détestez? En fait, quand j'applaudis, ça marche pas non plus, en fait. Je digresse, hein, déjà. Mais j'ai un truc.
Ah oui, parce que ça marche.
Voilà. Ah, explique-moi à nos auditeurs que Julien a un espèce de filtre sur son micro qui filtre très bien tous les sons externes, mais quand il applaudit ou qu'il y a des sons trop forts, ça les supprime aussi. Donc, vous ne l'entendrez pas s'esclaffer, peut-être, je ne sais pas à quel point ça filtre. On va voir, ça va bien se passer.
C'est vraiment les coulisses de la file d'attente.
C'est pas simplement les...
Je pense que les visiteurs, ils imaginaient pas ça.
Les ordinateurs de la Compagnie des Alpes empêchent leurs employés d'applaudir Europa Park, si je comprends bien, en fait. C'est ça qui s'est passé.
C'est ça, exactement.
Bien, ça commence bien. Vous n'êtes pas du tout là pour parler de vos employeurs respectifs. Vous êtes là pour parler justement de la concurrence, puisque on vous emmène. Enfin non, plutôt vous nous emmenez en voyage, puisque vous revenez d'un grand voyage. D'où revenez-vous, les amis?
On a commencé par aller au Qatar.
Et ensuite, on a été aux Émirats Arabes Unis.
Ils complètent leur phrase, regardez comme
c'est beau.
C'est magnifique. On va continuer comme ça pendant tout le podcast, s'il vous plaît.
On se croirait aux amours.
Fantastique.
Alors...
je peux lui taper dessus avec mon
carton,
ma pancarte aussi.
Mais voilà, parce que pour ceux qui ne savaient pas, du coup, c'est quand même le multivers, parce que c'est la première fois que vous êtes tous les deux ensemble dans ce podcast, et donc, il y en a qui certainement connaissaient déjà Julien Simon, et d'autre part, Sébastien pour Halloween, qui est déjà venu 3 fois, eh bien, figurez-vous qu'ils se connaissent tous les deux. C'est le featuring que tout le monde attendait.
Le crossover.
on est ravis.
Alors,
mais nous aussi.
Vous êtes allés.
Nous aussi. J'ai décidé de faire toutes les liaisons en Z.
Hein, c'était Chirac quand il faisait ça.
Y a pas une intelligence artificielle pour les annuler sur ton ordinateur magique. Alors, vous êtes allés au Qatar et aux Émirats Arabes Unis pour faire quoi? On se le demande dans ce podcast. Qu'est-ce que vous êtes allés faire là-bas?
Des parcs d'attractions, mais sans file d'attente.
Il va falloir ce podcast alors.
Ouais.
Ça nous intéresse pas.
C'est tout. Au revoir. C'était sympa.
Alors, ça consistait en quoi? Vous avez fait des parcs d'attractions? Il y en avait combien des parcs d'attractions dans votre petit parcours là?
On en a fait. Alors, moi, j'en ai fait que 23.
Quoi?
Oui. Et Seb a décidé de faire une journée de rab.
Je fais un petit supplément. J'en ai fait 26 au total.
Oh, attendez. Le zélé. Allez.
Je ne savais même pas qu'il y avait...
On est parti que 9 jours, hein, je précise.
Comment c'est possible?
Mais alors, attention, hein, dans le lot, il y a des mini-parcs où tu fais le tour en 5 minutes.
Ouais. J'exagère un peu. Oui, mais... 7 minutes 30, montre en main. Parce que généralement, ils te font tourner pendant 3 plombes sur leur kiddie coaster.
Mais attends, 24 parcs, j'ai mis la NASA sur le coup, là. 24 parcs divisé par 9, ça fait 9. C'est bien ça?
24 parcs divisé par 9, ça fait 9, non.
Non.
Non, ça fait pas ça.
Je me suis... 4 parcs divisé par, je suis vraiment sur
la NASA. T'as pris un coup, là.
2,666667. Donc quand même, 2,5 parcs par jour, il y a du boulot, quoi. Il y a aucun parc qui mérite un jour complet de visite. Ou alors il y en a d'autres que vous avez fait, vous en avez fait 10.
Ce qu'on dit pas, c'est qu'il y a 2 parcs qu'on a fait, non, il y a 3 parcs même qu'on a fait sur un jour.
D'accord.
Donc tout le reste, on l'a fait sur 6 jours.
Mais et alors vous allez nous dire peut-être pas, enfin vous pouvez si vous vous en souvenez la liste des 23 parcs que vous avez fait, mais juste avant en fait quand vous faites des journées comme ça, vous tracez dans le parc, vous faites j'imagine le crédit, vous reprenez la voiture, vous voulez j'espère pas 3 heures avant de repartir dans le prochain parc quand même.
Attendez, le crédit, ah, déjà on va parler le crédit.
Ah mais le crédit tous les Le crédit.
Le crédit, c'est un grand 8, un nouveau grand 8 qu'on ajoute à notre compteur.
Voilà.
Et sur cette folle semaine, on en a rajouté quelques-uns. moi, j'en ai rajouté, en l'occurrence, 33.
Ah ouais.
Bravo.
Et signalons que nous avons passé des seuils symboliques aussi, tous les deux.
Ah, ah oui. Ah oui. Bah, parlons-en.
J'ai passé le cap symbolique des 1000 coasters, des 1000 crédits... raider dans toute ma
vie. C'était quoi ton millième alors là-bas?
Un truc de merde. Quoi, c'était un truc pourri, un truc pour un kiddie coaster pour enfants, naze possible. Mais bon, moi je suis un petit joueur hein, parce que Julien il a fait mieux.
Alors Julien,
mais oui.
J'ai fait 2000 et mon 2000ème était même pas un coaster de merde, c'était Mission Ferrari à Ferrari World, donc je pense on va reparler un peu plus tard.
Je crois aussi.
Et parce que il y a deux... alors on a fait tout un épisode hein, sur les crédits, donc n'hésitez pas à revenir dessus et on y a appris d'ailleurs notamment que effectivement il y a deux écoles, il y a ceux qui s'en foutent comme toi Sébastien qui enfin des seuils et qui disent bah voilà j'ai passé ce seuil là, il y en a d'autres qui attendent et enfin qui font en sorte que leur millième ou leur deux millième soit un coaster un peu conséquent, donc voilà c'est pour ça que je posais la question, mais bravo à vous deux.
Bon, un moment quand tu pars en voyage très loin, tu vas pas attendre de faire le bon coaster et d'attendre 3 jours avant de faire
c'est
de
vrai.
Pas faire tous les autres coasters.
Surtout quand sur la trentaine de coasters, t'en as 3 bons.
Ouais.
C'est compliqué, quoi.
Ben alors, c'est comme ça qu'on va organiser un petit peu cet épisode, parce que 23 parcs, aucune envie de vous entendre décrire chaque parc au complet. Donc, on va peut-être...
On pourrait passer une heure sur Doha Toy Town et sur Gondolonia Film Park. C'était génial.
Ça fait rêver.
Et n'oublie pas non plus Trocadéro et puis Air Maniacs.
Chers auditeurs, je suis probablement comme vous, je n'ai pas les refs, hein, donc les noms de coasters obscurs. Dites juste avant de parler donc des tops et des flops de votre séjour au Moyen-Orient, oui. On va faire un tout petit tour extrêmement rapide dans la maintenance. On va revenir sur la question Spotify de l'épisode précédent. Un très chouette épisode avec Elodie qu'on a reçu qui avait visité Disneyland en Californie pour la toute première fois. On vous avait demandé qu'est-ce qui vous hype le plus à Disneyland Resort en Californie. On a eu beaucoup de Cars Land de Guillaume et de Pierre, on a eu du Indiana Jones évidemment de Morgan et de Valentin, et on nous a dit Alice, le tout petit Dark Ride sur Alice au Pays des Merveilles, et bien sûr la streetmosphère, les personnages qui se baladent dans le parc, ça c'est de Céline, des choses qu'on aimerait beaucoup voir à Disneyland Paris. Voilà.
Attends, moi j'ai un tout petit autre truc aussi.
Personne ne parle de Galaxy's Edge, de World of Color, de ce genre de choses.
Mais là, je te...
Le Mickey and Minnie Runaway Railway.
Dis tout de suite qu'on a un public de merde, Sébastien, je t'en prie.
Oui, bon.
Ah ouais.
Alors déjà, attends, un truc, Guillaume, avant que j'oublie, parce qu'il y a Vincent sur Facebook qui m'envoie des messages depuis 2 semaines, parce que j'ai oublié de le mentionner, alors que je lui avais promis, donc, dans le truc précédent. C'était la question.
Souvenez-vous, il y a 6 mois et demi.
Oui. La question, c'était quelle licence auriez-vous aimé voir être exploitée dans les parcs à thème? Et donc, voilà, Vincent, je te cite. Lui nous dit, je ne comprends pas pourquoi il n'y a aucun parc qui exploite les licences des animés de notre enfance, style Goldorak, Albator, Capitaine Flamme, etc. Bonne journée, les loulous. Et ensuite, il a un peu insinué que j'étais un quarantenaire, donc je l'ai tout de suite regardé, j'ai fait, oh là là, Vincent, je n'ai pas encore 40 ans, donc t'es capable.
Quel est le problème avec le fait d'avoir 40 ans?
Bientôt.
Ouais, ouais, on aime, on voudrait savoir.
Et j'y suis très bientôt aussi, mais moi, je n'ai pas regardé, je n'ai pas trop regardé Goldorak et Albator dans mon enfance, je crois que c'est quand même un tout petit peu au-dessus. Comme génération, mais
moi j'ai 40 ans, moi c'était pas Goldorak, j'étais trop petit. Moi, je suis la génération suivante.
Ouais, ouais. Toi t'étais trop petit, d'accord.
Même corrigera Julien, mais il y avait un peu de tout ça dans un parc d'attractions qui a cartonné à Paris, Planète Magique.
Ah oui.
Il y avait ce genre de licence, non?
Ouais. Licence, je sais pas. J'étais trop petit aussi.
Bon, Parcéologie fera une vidéo là-dessus. Merci, c'est envoyé. Oui. Ah, très bien.
Ah bah ouais, à quand la prochaine vidéo d'ailleurs pendant
oh là là, ne m'en parlez pas. Je crois que j'ai dépassé les 6 mois depuis la dernière. On s'y met tranquillement.
Ça va le référencement sur YouTube, oh, ça monte.
Oui. Et je reçois des tonnes d'argent, tu peux pas savoir. Je ne sais qu'en faire.
Mais ça je veux bien croire.
Rassemblons-nous chers amis, on va essayer de parler de ces tops et de ces flops de votre séjour je vais y arriver au Moyen-Orient. Alors, je propose qu'on entre le plus vite dans le vif du sujet finalement. On a envie de parler de gros coasters, non? On était déjà en train de parler de crédit il y a un instant.
Ah oui, mais et des dark rides aussi, s'il y en a.
Et des dark rides, oui.
Et des parcs.
Et des parcs.
Aquatiques.
Et des toboggans.
Voilà.
En fait, par contre, vous avez envie de commencer.
J'espère que vous êtes accrochés. Et que vous avez 4 heures devant vous, là, derrière vos écouteurs.
Parce que c'est laborieux aujourd'hui. Dites, roller coaster, ça vous dit? Donc, les tops, les flops, qu'est-ce qui vous a plu? Évidemment, vous y êtes déjà allé, mais on a quand même le droit de parler des trucs que vous avez refait pour la deuxième fois. C'est OK aussi, hein, je veux dire. Parce que vous parliez tout à l'heure de Mission Ferrari.
Bah vas-y, Julien, ou alors Mission Ferrari.
On part Mission Ferrari.
J'ai perdu leur langue, là.
c'est comme on est deux, c'est toujours compliqué de savoir. C'est toi, c'est moi. Faut qu'on se fasse des signes.
Donc commençons par Mission Ferrari, yes. Qui se trouve, comme son nom l'indique ou le laisse supposer, à Ferrari World, donc le parc dédié aux voitures, aux bagnoles, le parc qu'on préfère. et donc c'est un coaster qui a été construit il y a 8 ans, mais qui a ouvert il y a 1 an.
Ah ouais.
Parce qu'ils ont eu énormément de problèmes.
C'est, COVID.
C'est en fait un coaster. Oui, il y avait de ça aussi, mais pas que. C'est un coaster, je sais plus le nom technique, un truc avec des effets spéciaux à l'intérieur.
SFX coaster.
Construit par Dynamic Attraction. Donc
attends.
Une boîte qui a fait.
Ça veut dire quoi ça? Quel genre d'effets spéciaux?
Non, mais on va l'expliquer,
Allez,
doucement.
Je pensais que
c'est bien les millennials, ils sont pas patients.
On va y venir. Donc, Dynamic Attraction, c'est une boîte canadienne qui a construit plein d'attractions type l'extraordinaire voyage au Futuroscope, a bossé sur pas mal de choses à Disney, à Universal, et qui, depuis, a mis la clé sous la porte. Donc, ce qui explique aussi qu'ils ont eu peut-être du mal à ouvrir sur la fin. Et donc, c'est un coaster à effets spéciaux. Ça veut dire que t'as ton ride coaster, mais ce train s'arrête à certains endroits où il va se mettre sur une plateforme où il y a un effet de simulateur, ou sur un bout de rail qui va se déplacer de manière
latérale,
sur le côté latéral, voilà. Et voilà, plein de petits effets comme ça qui sont comparables un peu à un Hogwarts à Universal ou à
Gringotts.
Uncharted Gringotts, pardon.
Gringotts, ouais.
Non mais je fais le correcteur automatique, c'est pas grave.
N'importe quoi. Oui. Ou bien à Uncharted à PortAventura.
Très bien. Et ça c'est, attendez, on est dans les tops ou dans les flops du coup là?
Là on est dans les...
Moi je dirais, moi plutôt...
Ah, il y a pas un consensus.
C'est un coaster qui est intéressant.
C'est un flop.
Voilà.
C'est pas un flop.
On peut pas dire que
c'est
un top.
Pas non plus le meilleur, mais c'est un coaster très original et assez unique en son genre.
On est sur la langue de bois, j'ai l'impression un peu, non?
Ouais. Mais racontez un peu alors.
En fait,
il y a des surprises.
C'est un coaster qui est.
Vas-y.
Ouais, c'est un coaster. Bon, déjà à la base, c'est un coaster qui est très storytellé, c'est-à-dire, bon, alors l'histoire est assez bateau. C'était un agent secret avec une Ferrari, bien entendu. Ça, voilà, on va pas prendre une Aston Martin ici. Et en fait, c'est un coaster où s'alternent parties dark ride. Avec soit des écrans, soit quelques animatroniques ou scènes plutôt en décor réel, Et à chaque fin de scène, t'es catapulté, t'as un ou deux éléments de coaster, une bosse, une inversion, etc. Ça freine de nouveau. T'arrives de nouveau sur une partie donc, où le véhicule s'arrête. Alors, souci, tu vas avoir un rail qui bascule, qui est face à un immense écran hémisphérique. Le rail bascule vers l'avant, vers l'arrière. Puis à la fin, il se bloque en arrière en mode incliné. Puis le wagon repart en arrière. Là, t'as un looping, une spirale. Tu remontes, tu t'arrêtes. T'as de nouveau un peu de storytelling, de nouveau un peu de coaster, etc., etc. T'as au final, je crois, 5-6 scènes, et puis ouais, à chaque fois un petit morceau de coaster entre. Donc en ça, ouais, ça, c'est, on va dire, c'est plus Dark Ride que comment ça s'appelle, que Uncharted à PortAventura, et c'est plus coaster que Gringotts à Universal.
Ok.
C'est une espèce d'entre deux. Et après, pourquoi top flop? Je pense le top pour moi, c'est le concept. Le concept est vraiment très sympa. C'est original, ça complète assez bien l'offre du parc. Et puis c'est pas quelque chose qu'on a déjà vu. Le flop, c'est un peu, bah, c'est un coaster qui a mis, voilà, quasi 10 ans à sortir de terre par un constructeur dont en fait c'est le premier coaster. Ils ont fait des très belles machines, enfin l'extraordinaire voyage ou le chasseur de tornades au Futuroscope, c'est eux. Donc ils maîtrisent vraiment toute la partie simulation. Et justement, le rail qui est sur bascule fonctionne très bien. Mais à côté de ça, le roulement est pas topissime. Et puis, bah, ils ont eu beaucoup de problèmes techniques. Et puis, bah, aussi le fait que, comme c'est un coaster qui devrait ouvrir il y a 7 ans, eh bah, tous les médias ont été faits il y a 7 ans. Et c'est toute l'image de synthèse. Donc,
Ouais.
pour un coaster tout neuf, c'est déjà très vieux, en fait.
Et alors, c'est-à-dire que c'est leur
Ça, c'est
premier
un
et leur
peu...
dernier en fait, parce que j'imagine que ils ont fini là-dessus quoi, du coup.
Ouais, ben en fait ils en ont construit un autre en Malaisie dans un parc qui s'appelle Genting Sky World à côté de Kuala Lumpur, ben, où je suis allé d'ailleurs l'année dernière. Et là je pense, donc là ils ont construit la partie rail extérieur parce que celui-là là-bas il passe en extérieur, mais tous les éléments spéciaux n'ont jamais été fabriqués et je pense que le coaster n'ouvrira jamais. Enfin, j'ai quelques
Ok.
infos qui me disent que le parc a contacté d'autres fournisseurs qui leur ont dit que sans plan et sans rien du tout, ils n'allaient pas faire de miracle. Ou alors moyennant une somme tellement astronomique que le parc a dû dire, vous êtes bien gentil,
Petite parenthèse sur
mais...
Dynamic Attractions, ils ont mis la clé sous la porte quand? Parce qu'en fait, ils ont quand même fait le Futuroscope il y a un an ou deux là, donc.
Ben, juste après l'ouverture du Futuro, juste après l'ouverture de Chasseur de Tornades.
Non.
Donc il y a
Ok.
2 ans ou 3 ans,
Ok.
c'était maintenant.
Ouais, Chasseur a dû ouvrir il y a 2 ans et donc
Ouais.
ils ont arrêté il y a un an et demi, quelque chose comme
Bon,
ça.
j'imagine que souvent dans l'industrie, il y a une boîte qui s'éteint et puis en fait les mêmes ou presque refont une boîte. Enfin, on verra quoi. Mais je veux dire, le talent ne va pas s'évaporer. Enfin, on peut se rassurer. Est-ce qu'on peut se rassurer quand même?
Mais
Est-ce que tu veux
rassurons
dire que
les
rien ne
gars.
se perd, tout se
Mais
transforme, tout
oui,
ça
c'est
là?
pas nécessaire.
Précisément. Rien ne se perd, rien ne se crée.
Ok, mais en fait, j'ai l'impression que c'est un peu ce qui en ressort de chaque fois qu'il y a un story coaster qui ouvre, c'est que les fans de coaster trouvent que c'est pas assez, ça n'envoie pas assez de gros G, et que les fans de Dark Ride trouvent que il y a peut-être jamais assez de Dark. Enfin, tu vois, c'est toujours le cul un peu entre deux chaises. En tout cas, de la réception des fans en général, ces projets-là, non?
Ouais,
Bah,
bon,
je crois
là,
que
je
là, on a
trouve justement
un bon
que
compromis
l'équilibre, il est bon.
entre.
Ouais, voilà.
Ouais. On a vraiment une belle partie coaster avec deux inversions quand même. Donc sur un Dark Ride de ce type, c'est pas mal. Et une partie Dark Ride avec des belles scènes, des belles parties de simulation.
Ouais,
Il y a
il y a
un
beaucoup
bon
de bonnes
mix,
idées.
mais voilà, il y a des choses. Voilà, ils ont commencé peut-être trop gros par ce type de coaster, et du coup, il y a des choses qui sont pas forcément très fluides. Et puis, bah, comme Julien l'a dit, ça a déjà pris de l'âge au moment même d'ouvrir.
Ok.
Et est-ce qu'on peut
Et
parler un
puis
peu
aussi
de parce
ça.
que pardon, je
Ouais.
sais qu'on parle des coasters, mais est-ce que vous pouvez parler un petit peu du parc aussi en lui-même, qu'on ait un peu de contexte, savoir dans quoi ça s'inscrit, etc. Parce que Julien, tu m'as envoyé une vidéo que j'ai regardée avec soin, même si j'avais déjà une idée de quoi ça ressemblait, mais ça a l'air assez incroyable en fait comme parc, beaucoup en indoor, assez gigantesque, c'est réussi, non?
Ouais. Alors Ferrari World, c'est un parc qui est entièrement indoor, donc qui est à Abu Dhabi sur une île qui s'appelle Yas Island, qui est en fait dédiée aux loisirs. L'émir d'Abu Dhabi, qui est accessoirement le président des Émirats Arabes Unis, mais comme souvent dans d'autres États du Golfe Persique, a fait une espèce de grand master plan à l'échelle de son pays et a dit, bah écoute, là on va faire l'île des musées. Donc c'est là où ils ont construit le Louvre à Abu Dhabi, je crois qu'il y a le Guggenheim, et puis je sais pas quel autre musée en construction, tout par des très très grands architectes, gna gna gna. Là et là, on fait l'île de loisirs. Gna gna gna, exactement. Et donc l'île de loisirs s'appelle Yas Island, et Ferrari World, qui a ouvert je crois en 2010, si mes souvenirs sont bons, a été à l'époque le premier vraiment très très grand parc des Émirats, et était à l'époque le plus grand parc indoor du monde. Alors je saurais pas te dire la superficie, mais c'est grand. Ils ont le plus grand logo Ferrari au monde sur leur toit, ça c'est super important.
On sent les petits
Et
facts qui te distillent au cours de la visite, tu sais, t'as des trucs à raconter
c'est
ensuite
ça.
en revenant.
Mais c'est un parc qui a été assez bizarrement conçu. Bon, déjà, ils ont fait le choix de faire un bâtiment très architectural, ce qui est pas forcément optimal pour un parc d'attractions, parce que derrière, il faut rentrer des attractions qui vont dans des boîtes qui n'ont jamais la même taille, la même hauteur, etc. Et d'ailleurs, donc Yas, donc qui est supervisé par un organisme étatique, a construit ensuite d'autres parcs, donc Warner Bros Abu Dhabi, SeaWorld. Et puis il y a aussi un parc aquatique qui s'appelle Yas Waterworld. On voit dans les parcs suivants, ils ont été plus vers des boîtes, comment dire, assemblées les unes aux autres, qu'un grand bâtiment architectural. Et quand ils ont ouvert, ça a été développé par une boîte américaine qui s'appelle Jack Rose, JRA. Et on voit que c'est des gens qui étaient plutôt dans la muséographie, parce que les attractions qu'ils ont livrées au début étaient assez conceptuelles. On se dit, ils ont voulu faire des dark rides, mais alors c'était complètement capillotracté. Enfin, à côté, les vieux dark rides d'Epcot font très... très grand public.
Ah oui, ok.
À l'époque, ben, quand ils ont ouvert, ils avaient Formula Rossa qui était et qui est toujours le plus rapide coaster du monde, donc il va à 240 km/h,
Moi, je veux que
qui
vous me
sera
racontiez
détrôné
ça
l'an prochain
aussi.
par.
Obligé, ça c'est le gros
Ah ben,
highlight,
il
non?
était... On aimerait bien.
Ah
Il était
merde!
fermé. Voilà.
Ah
Oh
non! Aïe aïe aïe! Ah, parce que pareil, tu m'as envoyé une vidéo et là, il y a un sous-genre quand même de sur YouTube qui est très amusant, c'est de regarder les vidéos de ceux justement qui se filment dans ce coaster-là parce que ça va tellement vite.
En facecam.
Que t'as vraiment les joues qui se gonflent d'air, enfin c'est toujours assez impressionnant. Et la vidéo embarquée là que tu m'as envoyée, mais j'ai l'impression que cette accélération n'en finit pas. C'est hallucinant que la ligne droite au début, c'est ouais, c'est assez hallucinant. Donc petit dessin, vous aviez eu l'occasion de le faire avant, dans tes précédentes visites ou pas du tout, non?
Oui, voilà, c'était pas
Oui.
notre première par là-bas aux Émirats, et donc on a déjà tous les deux visité Ferrari World, et on a pu faire Formula Rossa une fois précédente. Et c'est vrai que c'est très impressionnant cette propulsion qui n'en finit pas. Bon, après le reste du parcours est pas super intéressant, mais c'est vraiment cette propulsion qui est incroyable. Et puis tu l'as dit, ouais, cette sensation de d'avoir ces joues qui arrivent pas à suivre presque le tellement ça va vite. C'est très
Tu
très
peux nous faire le
impressionnant.
bruit que ça fait comme on est en podcast, s'il te plaît, le bruit des joues.
Ouais.
Mon Dieu,
Aïe aïe aïe
je sais
aïe
pas
aïe.
si ça rend. J'ai entendu,
J'espère que tu n'as pas un filtre
mais.
anti bruit de joue, comme j'ai un filtre anti applaudissements.
Petite
Il faut
ASMR,
dire aussi que Ferrari World, accessoirement, Ferrari World est assez orienté sensation forte, c'est-à-dire que dans les quatre parcs qui sont sur Yas Island, il y en a un, donc Ferrari World, qui est plutôt sensation, jeune ado, tout ça. Ils ont Warner Bros Abu Dhabi, donc qui est orienté, ben, licence, DC Comics et Looney Tunes, donc plutôt plus familial. Ils ont SeaWorld, donc qui est penchant, ben, plutôt animaux, donc animaux marins. Et ils ont Yas Waterworld, donc qui est un parc aquatique. Et donc, pour en revenir à Ferrari World, c'est aussi là que se trouve sans doute le meilleur coaster des Émirats, qui s'appelle Flying Aces, qui est un méga coaster de chez Intamin, avec des sièges un peu wing, donc un peu qui sortent au-dessus des rails, et les deux rangées extérieures sont floorless, et qui est une très très belle machine, qui fait, je sais pas, 60 mètres de haut, 1500 mètres de long, enfin voilà, un bon gros coaster, qui dépote bien ce qu'il faut.
Et là, on arrive dans les tops, dans les vrais tops.
Voilà.
Yes.
Ça, c'est le top.
Comme on parlait il y a un instant de votre visite à Ferrari et Formula Rossa qui était fermée, on fait un gros câlin de réconfort à nos compères de l'équipe de Puissance Park qui allaient visiter également Ferrari World il y a pas
Ouais.
longtemps et ils se sont retrouvés devant trois attractions fermées, dont les trois plus grosses, il me semble. Donc il y avait Formula Rossa, Mission Ferrari et un troisième que j'ai oublié.
Et Flying
Celui dont
Aces.
on
Ah
parle. Ben voilà.
Ouais.
Euh,
Sans
y a, y,
compensation,
y...
en plus, je crois qu'ils
Donc
ont
ouais,
essayé.
gros somme, je peux comprendre, gros somme.
Donc
Parce
il y
que
avait,
tu
je crois,
payes
le
le
même prix, quoi.
Valentin,
Et t'as
Doubik,
pas.
et
Ouais.
voilà. Pas ouf, pas. Quand ça arrive, c'est quand même très très chiant. Donc voilà.
Mais on a bien kiffé vos stories quand même, et c'était, vous avez fait du bon boulot. Donc on regardera tout ça sur YouTube.
Donc Flying Aces.
Et ils ont eu, attends, ils ont eu un tour de Ferrari gratos qu'on n'a pas eu.
Ah.
Franchement,
ça. En dédommagement,
parce que... ou pas. Ouais, ouais, je crois.
Parce que
ouais.
Je sais, ils avaient publié, si vous allez suivre, je crois que c'était Dubik ou Val DeLorean, Valentin, sur Twitter, ils avaient fait je crois que c'était Dubik, un thread pour expliquer leur déboire avec l'équipe de support client ouais. Du parc, service consommateur, je ne sais pas, pour leur dire bah, que ça allait pas, enfin voilà, et ils ont un peu fait la sourde oreille, quoi, si je comprends bien. Mais donc, un tour de Ferrari gratuit en dédommagement ou c'est quoi le truc?
Oui, il me semble, ouais, un truc.
Mais quoi, il y a un track.
J'avais vu sur leur story.
Il y a un circuit où tu fais des tours de vrais Ferrari, c'est ça?
Ben, t'as un circuit automobile juste à côté du parc.
Ok.
Mais je pense pas que c'est là-dessus, parce qu'il me semble que c'est un circuit de F1.
Ok, ah, ça sent
bien. Oui, je pense qu'après, bah, parce que dans ce parc, tu peux aussi.
Tu peux acheter une voiture.
Si tu n'as pas envie d'acheter un simple t-shirt, tu peux acheter
une Ferrari. J'espère bien.
Mais comme à la sortie de test track, tu peux acheter une Chevrolet. Eh ben là, c'est une Ferrari, donc j'imagine qu'il doit avoir une petite piste d'essai pour faire vombrer le moteur et puis dire ok, ça vaut le coup de claquer je sais pas combien de centaines de milliers d'euros.
C'est dingue.
J'étais venu faire des grands 8 et je suis reparti avec une.
Est-ce qu'on peut acheter une Mercedes à la sortie Silver Star, Seb? C'est plus
non.
C'est plus sponsor.
Une voix petite, une majorette en miniature.
Ah, quand même.
Et pour revenir sur l'histoire de notre ami Dubik,
ouais.
En termes, je suis allé voir son Twitter. Donc en compensation, il a d'abord eu un magnifique voucher de 4 € par personne.
Ah quand même. Ouh là là. Ah oui, ça rigole pas.
Et ensuite, finalement, ça a monté plus haut. C'est allé a priori jusqu'au grand patron. Ils ont eu un voucher de 150 € pour la bouffe.
Merci patron.
Des fast-pass pour le parc. Et 2 driving experience sur le circuit de Yas Marina, donc un petit tour
mal.
En bagnole sur le circuit de Formule 1 du coup.
150 balles de bouffe,
mais ils étaient 4 je crois
dans un parc quoi.
Ouais, et puis les fast pass quand toutes les attractions sont fermées dans un parc où il y a personne. C'est intéressant.
Bien,
bon deal.
Bon ben on vous embrasse les amis hein, enfin ça ne changera rien mais les pauvres. Bien, Formula Rossa, on a compris que ça faisait partie de vos 3 tops qui, je le rappelle, sont Formula Rossa, Mission Ferrari et Flying Aces. Julien, tu en as un tout petit peu parlé, mais est-ce que vous pouvez décrire un petit peu ce qui fait l'attrait et que ce soit dans votre top? Parce que là, tu nous as dit que c'était un sort de wing, machin, où on avait les pieds dans le vide. Ok, je te suis. Mais qu'est-ce qu'il a de si bien, ce coaster?
C'est un coaster qui est un peu, bah, c'est un méga coaster Intamin, donc c'est un peu dans la lignée de Conda, par exemple, à Walibi Belgium. Comme je disais, la différence ici, c'est qu'on est sur des trains de 4 de front, avec les 2 sièges du milieu, classiques, et les 2 sièges sur les côtés, floorless, donc sans plancher, à gauche et à droite du rail. Et, bah, c'est un très beau parcours, avec je crois, peut-être le lift le plus rapide jamais construit sur une montagne russe, c'est un truc, enfin, en 5 secondes, t'es en haut. C'est vraiment très impressionnant. Il y a un très beau non-inverted loop, donc un looping qui fait une vrille sur lui-même au sommet pour commencer le parcours. Et puis après, bah, c'est une succession de gros camelbacks qui envoient du lourd, de virages. Il y a une petite inversion à la fin. Le parcours est très long. Non, c'est vraiment une belle, belle bécane, quoi.
Top.
Ouais, c'est ce qui est le plus marquant sur cette attraction, c'est la vitesse constante tout au long du parcours et les bosses qui font vraiment décoller nos fesses des sièges. C'est vraiment très 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 agréable.
Et est-ce que vous avez tenté de mettre un peu de jeu entre votre taille et la barre pour essayer d'avoir un petit peu plus de décollage de fesses?
Alors comment dire, les opérations sur ce coaster sont à chier. Je crois pas qu'on ait fait un tour en mettant moins de 3 plombes à charger. Ils ont sans arrêt des défauts sur les lap bars, donc ils passent en fait 3-4 fois te resserrer. En fait. C'est ça. Donc ils passent 3-4 fois te resserrer la barre. Donc c'est franchement pas évident. Et puis c'est des sièges qui sont en fait, c'est la précédente génération de sièges Intamin. Ils sont très très ouverts leurs sièges. Et t'as des virages qui sont quand même assez méchants, où tu t'as tendance à valdinguer sur le côté, et en fait, c'est pas vraiment un coaster où t'as envie de laisser trop de jeu.
Oui, ok. Ça se
D'accord.
tient.
Je savais même
Conseil
pas que c'était
d'amis,
un
restez
truc,
en ligne.
que c'était un truc qui se faisait parmi les coaster fans de l'essai du jeu pour avoir plus de sensations. Très dangereux, on ne
On ne
recommande à personne de
cautionne
faire
pas
ça,
cette
dis donc.
pratique.
Bah
Attention,
non.
voilà. Très bien. Alors, on a parlé des tops, et là, commence à se frotter les mains. Est-ce que
Attends,
ah
j'ai encore un top.
oui,
Désolé,
vas-y.
là, je sais.
En termes de coaster.
Ouais. Si on va quand même signaler dans les nouveaux, le nouveau top qu'on a fait parce que Flying Aces, on l'avait tous les deux déjà fait. On va parler de Manta à SeaWorld, donc à Abu Dhabi, donc juste en face
Ouais.
de Ferrari World. Donc, il y a de nouveau un coaster de chez Intamin et qui est pour le coup un LSM, donc plutôt, on va dire, tendance Toutatis, avec un parcours qui est pas très très haut. Je pense qu'il doit faire, ouais, peut-être 25 mètres de haut. Donc, c'est vraiment pas grand chose. Il va pas super vite, mais par contre, il a un parcours, bah, très ras du sol, très très long aussi, avec énormément d'éléments. C'est assez familial, un peu dans la lignée d'un Cheetah Hunt à Busch
Ah.
Gardens, Tampa pour ceux qui connaissent. Mais bon, beaucoup plus moderne, avec énormément d'éléments. Il y a quand même quatre inversions, il y a trois catapultes, et c'est vraiment un coaster qui est pas très intense, mais qui est vraiment très rigolo parce que le train il bondit un peu dans tous les sens, à gauche, à droite, paf, paf. Il y a plein d'éléments différents. C'est aussi c'est plutôt familial, familial plus, on va dire, mais quand même une chouette bécane aussi.
Manta. C'est pas le seul coaster du groupe qui s'appelle Manta, j'ai l'impression.
Oui, il y a dans tous les parcs SeaWorld un coaster qui s'appelle Manta, mais c'est toujours un coaster
Et...
différent, c'est jamais le même.
Ah ouais.
Ouais, c'est ça. Ouais.
C'est vrai que c'était un hommage en fait à la femme du directeur qui s'appelle Samantha. Un petit fun fact comme ça.
Ah.
C'est pas vrai.
Rien à voir avec
Alors,
Yare Manta. Ah oui, non, zut.
blague à part, je crois que Shamu, donc qui était, parce que ça allait
Où
plus
ça
loin,
va
qui
aller?
était l'orque symbole de SeaWorld, je crois que c'était le surnom du créateur de SeaWorld, un truc comme ça.
Un peu comme
C'est peut-être totalement faux, mais c'est peut-être
on
totalement
dit
vrai.
beaucoup de fake
Qui
news
sait?
sans le savoir sur ce podcast de toute façon, donc sachez-le,
Exactement.
les
Oui,
auditeurs le savent, on dit ça et puis généralement 2-3 épisodes plus tard on s'excuse vaguement,
oui.
donc voilà, c'est comme ça que ça
Et
marche.
je crois qu'à ce stade de cet épisode, les auditeurs ont compris que ce soir c'était un peu le café du commerce et qu'on était entre nous en
Et
train de
d'ailleurs,
papoter.
avant qu'on passe au flop des coasters, on aurait dû commencer par là, je pense, mais je veux un top et un flop des parcs aussi de manière générale, parce que là on rentre tout de suite très dans la technique avec les coasters,
C'est
mais
vrai.
vous avez fait 23 ou 24 parcs, donc il y a quand même de quoi dire. Donc, mais continuons pour l'instant. Donc ouais, s'il y a des flops coasters, des trucs un peu même un peu inédits qui soient particulièrement merdiques. Je vois
Bien
que Sébastien
mince.
opine
Il
du chef,
trépigne
je te
sur
laisse
sa
lancer.
chaise. Il a
Oui.
envie de.
Oui,
Oui.
il y en a. Notamment au Qatar, les coasters slash tyroliennes
Ah.
interdits aux plus d'1,80 m. Ça, c'est nul,
Mais toi, c'est un
remboursé. C'est de
coaster
la
tyrolienne.
discrimination.
Tu fais plus d'un
Un
mètre
coaster
80,
tyrolienne.
Sébastien, c'est ça?
Eh oui, tous les deux. Julien et moi,
Ah
on
ouais.
fait tous les deux plus d'un mètre 80. Effectivement, il y a plusieurs. Alors, c'est pas des trucs géniaux, hein. C'est des tyroliennes sur rail, tyroliennes à virage. Mais ça compte comme un crédit, donc on
J'étais
veut les faire.
sûr que c'était ça le truc qui vous.
Bah, évidemment.
Voilà. Mais ça, est-ce que c'est un truc un peu nouveau? Parce que j'ai l'impression de voir des vidéos de ça sur TikTok depuis pas si longtemps que ça, avec les gens qui se font
Ouais.
brinque-baller, mais comme pas possible. Est-ce que t'as vraiment envie de
Ah
le
bah
faire?
ça,
Ouais.
moi j'ai plus trop envie de les faire depuis que j'ai eu un petit accident sur une
Ah,
attraction
t'as fait
de
pipi?
cet acabit.
Eh
C'est
bien, on
pas
veut
du
tout
tout accident,
savoir,
non,
non?
non, pas ce
Ah.
genre d'accident. C'était l'été dernier à Andorre, dans un parc qui s'appelle Natureland, où il y a l'alpine coaster le plus long du monde, et donc ils ont aussi une de ces
Explique alors
tyroliennes
peut-être, ouais,
sur rail.
pour ceux qui savent pas du tout de quoi il s'agit, ce que c'est exactement.
Donc c'est donc ce parc donc il y a le donc l'alpine coaster le plus long du monde, donc c'est les luges d'été sur rail, pour schématiser, sur lesquelles on peut soi-même freiner ou aller à
Ouais.
fond. Donc ça c'est génial, c'est 3 km de long, donc c'est incroyable. Ça virevolte entre les arbres, c'est génial. Et à côté, ils ont une tyrolienne sur rail. Donc on connaît tous la tyrolienne sur un câble qui va en ligne
Ouais.
droite. Là, c'est un rail en acier qui est suspendu à travers les arbres avec des virages. et donc qui lui aussi se balade entre les arbres. Et donc j'ai fait celui-ci, et puis au dernier virage j'ai pris tellement de vitesse, puisqu'on est juste accroché par un harnais, ouais, et suspendu avec le rail au-dessus, j'ai pris tellement de vitesse que mon corps est venu taper dans le virage sur le rail.
Mais non.
Je me suis tapé les lunettes dessus, et donc j'ai pété mes lunettes.
Oh non.
Ce qui était formidable, vu que j'avais le lendemain 1000 km de route à faire.
Ah, putain. Mais attends, le rail, un rail qui était adjacent, un autre rail qui était à côté, ou pas le rail qui était au-dessus?
Non, le rail du coaster, vu que t'étais juste suspendu à un pauvre câble.
Donc t'as rebondi.
Câble,
ça, et... comment ta tête a réussi à aller jusqu'au rail?
Je l'ai pas vu, mais ça brinque-ballait dans tous les sens, que mon corps est revenu par le côté sur le truc.
Bah c'est peut-être une bonne chose.
C'est des trucs à raconter dans le podcast.
C'est peut-être depuis ça qu'ils ont interdit au plus d'un mètre 80. De toute façon, toute attraction qui me dit même si moi je fais pas 1m80,
c'est ta faute. Ouais. C'est de sa faute. Putain.
Eh oui, tu prives.
Alors, je précise que j'ai respecté toutes les consignes de sécurité.
Oui,
évidemment.
Évidemment.
Donc pas de tyrolienne pour vous au Qatar.
C'est ça le pire, c'est que c'est quasiment toutes du même constructeur, mais à chaque fois c'est des consignes différentes quoi. Alors parfois c'est 2m10, parfois c'est 1m80, il y a pas.
Parfois c'est le poids.
Ouais.
En fonction de la rentabilité, quoi, qu'ils veulent.
Exactement,
ouais. La prise de risque.
Non, parce qu'il y en a, plusieurs qu'on n'a pas pu faire, mais il y en a une, justement, à Yas, que j'ai pu faire, mais que Seb a pas pu faire. C'est compliqué.
Oula, ok.
Mais alors, les merdes que vous avez fait, peut-être.
Oui,
on a
veut un débrief des coasters de merde.
Mais oui.
Alors, on peut parler du tout premier. C'était, je crois, le highlight de ce séjour à Doha Toy Town, un parc indoor ridicule.
Non, je veux pas te laisser dire ça.
On peut parler de parc, je ne sais pas, un petit Family Entertainment Center.
D'accord.
Donc un petit, une salle d'arcade avec des petits manèges.
C'est toujours nul, ça.
Au-dessus d'un supermarché.
Ça vend du rêve. Bon,
avec un endroit fantastique. Enfin. C'est au-dessus d'un supermarché. Les murs sont roses, donc c'est bas de plafond. Tous les murs sont roses. Et c'est rempli de résine, mais tu sais, le truc le plus dégueulasse, cringe, que tu peux, tu sais, avec des nains de Blanche-Neige, mais fluo et puis brillant. Enfin, c'est la fête foraine avec du mauvais goût, quoi.
Et ils pompent des licences aussi, quoi. Ils te foutent des vrais nains de Blanche-Neige, rien à foutre, quoi.
Non, je pense qu'ils ont l'autorisation de Disney. Hein, c'est...
Ah, quand même.
On a un Seb nous montre Bugs Bunny la pipeuse.
Tout à fait effrayant, avec une espèce de bouche mal peinte qui rend le
du rouge à lèvres un peu. Ouais, c'est très bizarre. Ouais.
Et ça. Mais après, tu vois, on voulait faire une photo, et puis après tu dis, on est quand même au Qatar, état musulman on l'a pas fait parce qu'on voulait pas.
Il faut
expliquer le contexte de la visite. En fait, on était venu déjà la veille au soir, donc juste en sortant de l'avion, parce que c'était juste à côté de l'hôtel, et donc on arrive, tu sens qu'il y a personne, enfin de toute façon il y avait jamais personne, et puis je demanderais, on voudrait faire le coaster, elle dit ah ouais non mais là c'est pas possible, ce soir c'est soirée famille, il y avait pas mal de femmes avec enfants, au Qatar ça reste quand même assez séparés.
Ouais.
Et elle nous dit revenez le lendemain, on ouvre à 10h et le lendemain on revient à 10h comme la madame l'a dit. Et puis elle nous a laissé passer, on était les seuls. Il y avait que nous, ils nous ont ouvert le coaster, on a fait notre tour de coaster, il nous a fait tourner pendant des plombes dessus.
Et
la fois on est parti, puis en partant, je lui dis mais on vous doit quelque chose. Elle dit non, c'est bon. Voilà.
Dingue.
Donc, c'était de la merde, mais c'était gratuit.
Mais alors il y a un truc
aucune gratitude.
Vous avez l'air de dire depuis. Un truc que vous avez.
C'était très sympa. Tous les opérateurs étaient super sympas. La nana de la quête, c'était super.
Vous leur
sympa.
Faites bien leur pub, du coup, c'est sympa.
Le parc l'était un peu moins.
Tous les opérateurs, ils étaient deux.
les deux étaient trop.
Ok, très bien.
Mais vous avez l'air de dire que tous les parcs. Enfin, alors je sais pas, vous allez me dire si c'est le cas dans tous les parcs, mais que finalement c'est très très peu fréquenté. Et ouais, enfin, vous avez l'air de dire qu'il y a personne nulle part, et c'est quelque chose qu'on voit pas mal sur les vidéos aussi pour celles et ceux qui ont vu des, enfin, un peu n'importe quel vlog de n'importe qui dans tous ces parcs de cette région-là, c'est désert quoi. Alors comment se fait-ce? Est-ce que ça va tenir longtemps comme ça? Tout ça quoi.
Est-ce qu'on est sur une bulle spéculative qui est sur le point d'exploser? Et j'en fais un peu une pirouette, une blague, mais je me pose vraiment la question en fait, parce que là qui ferme. Bollywoodland, ça a fermé.
Bah, je pense que on est sur des parcs qui ont été faits avec des moyens financiers énormes, en tout cas pour les gros parcs. Hein, on parle pas du petit parc de Doha. Les gros parcs comme Yas, dont on a parlé, ou Motion Gate et Bollywood, ils ont été faits avec un objectif d'attirer des touristes et aussi beaucoup pour le prestige. Ils sont faits aussi avec des fonds étatiques, donc ils vont jamais rembourser les investissements de départ, mais pour autant ils vont continuer à les opérer pendant un moment parce qu'il y a le prestige qui va derrière. Leur objectif, c'est qu'ils soient opérationnellement pas en déficit. Et pour certains, ça marche. Alors, Ferrari a toujours un peu de monde. Les parcs de Yas tournent plutôt pas mal sur toute l'année. Mais c'est vrai que t'as beaucoup, beaucoup de périodes où il y a vraiment personne.
Et alors, est-ce que vous avez trouvé ça cool ou plutôt, parce qu'il y a un peu deux écoles là aussi. Il y a les gens qui aiment bien que ça soit agréablement occupé, comme Disney le dit de manière très diplomatique quand dans ses calendriers d'affluence. Ou est-ce que pour vous être tout seul c'est trop cool parce que voilà vous passez les attractions, vous les enchaînez. Moi j'aime bien quand il y a un peu de monde quand même quoi, que ça crée une atmosphère, mais je sais pas si c'est vraiment le cas là-bas.
Bah, c'est vrai que ça manque clairement d'atmosphère. Y a quand même une différence entre le Qatar et les Émirats. Le Qatar, les parcs, c'est vraiment tout nouveau pour eux.
Ouais.
C'est-à-dire alors que, comme dit à Dubaï, alors il y a des parcs qui sont plus vieux mais qui n'existent plus, mais le premier gros parc dont Ferrari a ouvert il y a quasi 15 ans. Donc, ça rentre petit à petit dans la culture, doucement, mais c'est quand même plus visité que les parcs au Qatar. Enfin, je pense le plus visité qu'on a fait, il y avait peut-être 100 personnes dedans, quoi.
Ah ouais.
Mais ouais, ça manque clairement d'ambiance. Après, d'un autre côté, c'est peut-être pas si mal parce que les opérations, les employés sont très sympas, mais les opérations sont très mauvaises.
Ouais.
Donc on voit que, enfin, comme dit, je parlais de Flying Aces, qui sont des opérations de merde. Voilà, il y avait genre 40 personnes devant nous, on attendait 20 minutes, quoi. Donc, ouais. Donc tu dis, ouais, ça serait sympa qu'il y ait un peu plus de monde pour qu'il y ait plus d'ambiance.
Mais, en fait, non.
Mais si c'est pour se retrouver avec une heure d'attente à chaque attraction, ouais. Finalement, non.
Ok, fair enough.
Mais en fait, quoi, ce qui leur manque, en fait, c'est-à-dire on a construit les parcs, mais comme il y a un manque d'expertise.
Mais en fait, c'est comme tout là-bas.
Ils ont quoi, parce que ça s'importe en fait des gens dont le CV est sur l'opération et des trucs comme ça. En fait, ils ont du mal à recruter. Enfin, t'en sais peut-être rien, mais
comme le disait Sébastien, en fait, ils ont construit. En fait, ils n'ont pas regardé la dépense pour la construction. C'est-à-dire l'investissement initial, c'est à perte et c'est un peu construisant, les gens viendront. Tu vois, enfin, tu vois, en Europe, on ferait une étude de marché pour voir s'il y a suffisamment de clients et tu fais ton parc avec un business plan, etc. Là-bas, c'est pas du tout ça. Mais par contre, comme leur objectif, c'est quand même d'être rentable en termes opérationnels, eh ben, ils coupent quand même pas mal sur le nombre d'opérateurs et on sent qu'ils se foulent pas trop sur la formation des opérateurs, etc., etc. Il y a pas, enfin, c'est pas comme en Europe ou comme chez Disney, avec un besoin de rentabilité opérationnelle. Mais en même temps, comme il n'y a pas grand monde, c'est pas dramatique non plus, quoi.
Est-ce que vous êtes senti en danger? Parce que il y a ça, mais il y a aussi la maintenance. Parce que, non, mais si tu me dis ça et que les attractions, du coup, sont pas entretenues, c'est moyen aussi, quoi.
Non, on se sent pas en danger. Clairement, on est sur des standards de qualité européenne ou américaine.
Ouais.
Tu le disais, ils font venir sur des postes à responsabilité des gens qui ont de l'expérience, qui viennent des États-Unis, qui viennent d'ailleurs dans le monde. Donc sur la maintenance, c'est toujours, enfin, les attractions tournent plutôt bien. C'est plutôt des petits problèmes opérationnels. C'est des capteurs qui font défaut, parce que je pense que les températures aussi mettent les machines à rude épreuve, même si la plupart des parcs sont en indoor. Parfois, les grosses attractions, comme celle dont on a parlé, Formula Rossa ou Flying Aces, sont en intérieur. Ça peut aussi jouer.
Ouais.
Bon, en tout cas, on sera pas en danger. Un truc qui fait aussi partie de la maintenance, mais qui est peut-être un peu moins le focus que la sécurité, c'est s'il y a des dark rides et des décors animés, est-ce que la maintenance suit sans parler de danger, tu vois? Parce que c'est les dark rides, je trouve qu'il y a beaucoup de parcs si on sort de Universal et Disney qui vont avoir beaucoup d'enthousiasme à créer des super trucs, et puis finalement au fil du temps les effets commencent à être HS, quoi. Je sais pas si vous l'avez ressenti là-bas.
Oui, ça se ressent parfois sur certains des dark rides. J'ai le souvenir du dark ride sur Hotel Transylvanie à Motion Gate, ouais, sur lequel il y avait plusieurs effets qui marchaient pas, ou bien à Warner sur le Soarin' local sur Green Lantern, où il y avait des gros problèmes de projecteurs avec une image hyper terne. Donc oui, là il y a certainement mieux à faire.
Alors toi, Louis, tu voulais parler des parcs flop et top ou
Bah ouais, on peut juste de manière, parce que comme on a il y a plusieurs pays, enfin vous avez fait plusieurs pays, plein de parcs. Est-ce qu'il y en a top et flop, tout simplement, si on continue sur cette lancée là. Bah vas-y Julien, si t'as un parc, mais peut-être que c'est les mêmes aussi pour vous. Hein. Ouais, faisons les tops et voilà ce qui vous a plu particulièrement.
Bah, moi je pense que on partage la plus grosse surprise, enfin pour moi, alors ouais, ça a été SeaWorld. Donc SeaWorld à Abu Dhabi, okay, donc qui fait partie du complexe de Yas Island. Alors je déteste les SeaWorld de manière générale, enfin c'est vraiment pas des parcs que j'apprécie. Ils ont parfois des bons coasters, notamment Orlando, mais c'est à peu près là que ça s'arrête. Je suis pas du tout fan des spectacles de dauphins et de je ne sais quoi. Mais là, ils ont vraiment fait, alors SeaWorld a grosso modo prêté sa licence, a suivi, est resté gardien du temple. Enfin, c'est l'ayant droit. Le parc a été développé par une boîte qui s'appelle PGAV, qui est un cabinet américain, qui est à Saint-Louis, qui a fait tous les Busch Gardens, tous les SeaWorld, qui a fait Port Aventura, qui a fait aussi beaucoup d'aquariums. C'est un peu leur spécialité. Et là, ils ont fait un parc mais complètement dingue, avec des aquariums, enfin de loin les plus beaux aquariums que les plus. Je crois que c'est un des. Alors, je crois que c'est le plus grand en volume, mais c'est pas le plus grand en un autre critère. Enfin bref, un des aquariums est immensissime, avec la plus grande des vitres, elle fait 20 mètres de haut, c'est hyper
incroyable,
impressionnant.
Circulaire, un truc du genre, là, non, c'est pas ça? Une sorte de
ouais, non, c'est une vitre, c'est une espèce de faille. Alors il y a 15 000 hublots, mais je trouve le plus impressionnant, c'est une faille en fait qui fait 20 mètres de haut, mais qui est pas très large, qui doit faire, je sais pas, 2-3 mètres, mais dans une seule pièce, t'arrives par en haut et tu vois cette cassure, enfin.
Dingue.
Y a vraiment une superbe mise en scène. Le hub du parc, donc c'est tout en indoor. En fait, bon, quand tu rentres, tu montes un escalator et t'arrives dans le hub, il y a 5 zones thématiques. Et le hub, c'est une salle circulaire qui fait, je sais pas, 40, 50 mètres de diamètre, avec un écran LED 360 degrés qui fait, je sais pas, 10 mètres de haut, un truc comme ça, et c'est hallucinant, quoi, avec un show en continu, et puis il rajoute encore des drones, parce que sinon c'est pas drôle.
Il y a des drones à l'intérieur qui font le show.
Il y a des drones à l'intérieur.
Le plus drôle, c'est quand il y a un drone.
Le plus drôle des drones.
Dans le décor. Ça, c'était mon petit highlight du séjour.
Attendez, vous parlez des drones, il faut préciser, c'est pas des drones en forme de dauphin qui volent dans le ciel, des trucs comme ça? Non, c'est pas ça?
Alors, ils en avaient un. Il y avait un drone comme ça.
En forme de tortue. Il y avait un dauphin aussi une époque, mais il doit plus marcher. Mais il y a aussi des tout petits drones qui font juste une petite
par centaines.
Ah, j'ai pas vu ça. Julien,
centaines, je
mais
sais
non,
pas.
Non,
vous l'avez pas dit, mais c'est, on parle d'un parc qui a vraiment ouvert il y a quelques mois, celui-là, non, c'est pas ça?
Ouais, il a ouvert en mai, je crois, mai juin 2023, dans ces eaux-là.
Ouais, il a eu 10 mois d'existence.
Et honnêtement, on a donc en attraction, il y a pas grand-chose. Donc il y a Manta, donc le coaster dont tu as parlé. Il y a une zone enfant qui est assez sympa, qui rappelle un peu dans le Mermaid Lagoon de Disney Sea, dans le traitement du plafond et puis Et puis voilà, dans laquelle il y a 5-6 attractions pour enfants, dont un petit family coaster. Ils ont un, alors bah, ça malheureusement on l'a raté. Ça, je crois que Dubik et compagnie l'ont fait. Ils ont une espèce de Soarin', mais en fait on est dans un écran boule. Donc à l'intérieur de la boule, donc c'est un écran LED, bah, 360 degrés dans tous les sens, et on est assis sur une espèce d'anneau, enfin c'est pas sur une espèce, sur un anneau. Donc pareil, 360 degrés, on regarde vers l'intérieur et puis l'anneau il tourne sur lui-même. Je crois qu'il peut basculer. Enfin il y a un axe horizontal pour faire basculer. Il paraît que c'est que le dispositif est assez impressionnant, que le film est pas foufou, mais bon, ça, c'était en maintenance.
Non.
Et voilà, donc il n'y a pas tant de d'attractions à faire que ça, mais on a quand même passé 3-4 heures dans le parc à visiter tous les aquariums. On n'a pas vu de spectacle, mais c'est ouais, c'est vraiment un très très beau parc à parcourir en fait.
Top.
Ouais, le niveau de détail, de décor est super impressionnant. Je ne sais pas combien de tonnes il y a de béton sculpté là-bas, mais
Ah,
c'est très très très
grande
balèze.
passion de Guillaume, ça.
J'adore.
Et puis ouais, il y a des enclos d'animaux qui sont super super immersifs. Celui des phoques, super mignon. Enfin, c'est voilà, c'est
Mais
vraiment bien foutu. Après, bon, toujours
le
une petite
ouais.
réticence avec les animaux
Ouais. Mais c'est joli.
qui sont là-bas, mais c'est joli, voilà.
Et bon, seul petite, enfin petit bémol, c'est l'enclos des pingouins où il fait, je sais pas, c'est température négative. Et tu te dis, mais
Moins
enfin, ça m'a
4.
rappelé Antarctica à SeaWorld Orlando justement, qui était cette horrible dark ride qui tchafond, où bah tu finissais dans l'enclos des pingouins, il faisait moins 15. Et ben là c'est pareil, t'es dans un parc bon climatisé, comme t'es là-bas, t'es plutôt en short t-shirt que en combi d'explorateur du pôle Nord. Et donc t'arrives dans cet enclos et tu te les pèles, tu les pèles. Et en plus c'est là-bas qu'on a réussi à rencontrer, à croiser par hasard des gens qu'on connaissait, donc on a commencé à discuter. Et puis on a fini par faire non mais en fait c'est horrible, il fait trop froid, on se casse.
Immersion,
Mais
immersion. Bah après, on n'est pas à une aberration près
voilà.
écologiquement parlant, j'imagine là-bas. Mais c'est vrai que les aquariums, bah quand on parle de gros
Ça.
mammifères, c'est vrai que c'est chiant, hein, les dauphins, les orques, etc. Vraiment pas top. Mais les aquariums de manière générale, moi je suis quand même très fan. À Londres, il y en a un qui est génial. C'est un SeaWorld aussi, je crois. Aussi Sea Life, je crois que ça s'appelle. Sea
C'est
Life,
live, ouais.
qui est incroyable. Ils ont rethématisé pas mal de zones récemment qui sont vraiment très très cool, où tu vas dans la jungle, etc. Même celui de Paris, au Trocadéro, il est cool. Bah voilà, ça va un peu un aspect comme ça contemplatif que moi je trouve très cool. Donc j'ai jamais fait le SeaWorld, mais oui, ils en font par contre du coup là-bas encore des, parce que je sais qu'aux États-Unis c'est en train de
Ouais,
comment
ben
dire, de fermer tous
il
ces
s'était
shows de
Ouais, il
dauphins.
s'était pris un énorme backlash parce qu'il y a eu un reportage qui est sorti, bon, je pense qu'il y a pas loin de 10 ans maintenant, qui s'appelait Blackfish,
Blackfish, ouais, bien sûr.
sur justement le traitement des la mascotte de
Des
SeaWorld,
orques.
c'est un orque
Ouais.
à la base, enfin le fameux chamou. Et donc bah ils ont ça leur a fait énormément de mal. Donc ils ont retiré petit à petit tous les orques et en fait tous les SeaWorld aux États-Unis sont en train de se réorienter
C'est
vers des
ça.
parcs d'attractions beaucoup de coasters et de mettre un peu de côté le côté
Ouais.
faune marine quoi.
Et c'est pour ça que je
Et
demande
d'ailleurs
là-bas,
à
c'est
SeaWorld
pas
Abu
le cas,
Dhabi,
c'est le cas ou pas? Parce que tu me dis qu'il y avait des
ouais,
spectacles quand même.
ils ont pas de gros, ils ont des dauphins et des otaries. Les deux shows, c'est dauphins et otaries. Donc ils ont pas d'orques, ils ont pas de
Ouais, ok.
gros mammifères marins.
D'accord.
Mais
Ok, bon, bah on espère que c'est dans les meilleures conditions possibles, en tout cas. Mais ouais, c'est intéressant de voir
Mais, ouais, et puis
les transformations.
après, d'ailleurs, ouais, ils font quand même beaucoup de, je sais pas comment ça s'appelle, de pas greenwashing, mais et après, enfin, je vais pas mettre en
Oui, bah
doute
si.
la qualité des soigneurs, etc. Mais t'as toute une partie pédagogique avec, on te montre, enfin, et puis c'est impressionnant le matos qu'ils ont. Enfin, tu te dis, putain, ça doit coûter, enfin, le scanner à dauphin, ça doit coûter un petit paquet d'oseille, tout ça. Mais ils ont
Ouais,
toute une
ils ont une
zone que tu
vraie
peux
clinique.
visiter, enfin, l'hôpital, voilà, l'hôpital des animaux marins, ils ont tout un programme de sauvetage et de rééducation, tout ça,
Ouais.
d'animaux marins. Après, bon,
Oui, tu
bien,
sais
pas
jamais à
bien,
quel point
ça,
c'est
ouais.
de la communication ou pas, mais bon, écoute, voilà. Mais je retiens que c'est votre top, et ce qui est quand même assez étonnant parce que on n'aurait pas parié là-dessus.
Alors, je précise, c'est le top découverte. C'est
Ouais.
sans doute pas le meilleur parc du coin, mais c'est un, enfin voilà, c'est un parc à voir, honnêtement.
Cool.
Ça vaut le coup d'œil.
Je crois que le meilleur parc des Émirats que j'ai visité tout seul sans Julien, c'est le parc Warner, qui est juste à côté, Warner Bros World Abu Dhabi de son petit nom complet, qui est un parc que j'adore, qui propose des attractions d'un niveau juste en dessous d'Universal, vraiment très 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 quali.
Ouais, dis-nous un petit peu parce que c'est un parc qui est, enfin, dont on a pas mal parlé, je trouve, pendant sa construction, quand il a ouvert, et puis là, il est un peu passé hors radar, mais évidemment, parce que c'est pas nécessairement sous la, allez, c'est pas facile d'accès pour nous tous. Il y a quand même deux, trois attractions, qui ont l'air d'être assez cool, je pense, au Batwing. Non, c'est pas ça. Le truc sur Batman
Ouais, tout à fait.
Tu peux nous en parler un petit peu parce que c'est un peu le même principe que Forbidden Journey de Harry Potter, mais en mieux, en moins bien. Dis-nous tout.
Ouais, tout à fait. Donc Warner, c'est un parc là encore indoor, là encore sur Yas Island, donc à côté de Ferrari World et SeaWorld, et qui est basé sur les licences Warner. Donc il y a une grosse zone DC Comics et il y a une grosse zone Toons, Looney Tunes, Pierre à Feu, Tom and Jerry, etc. Dans la partie DC, on a un très bon Flying Theater sur Green Lantern, avec un film d'action assez, enfin qui envoie. On n'est pas sur du classique contemplatif, on survole des jolis paysages, mais c'est un vrai film d'action et le simulateur bouge beaucoup. Ouais. Y a un ciné 360 sur Superman, une funhouse sur Batman et un dark ride type Spider-Man sur la Justice League, et la plus grosse attraction du parc, c'est un dark ride en robocoaster, donc comme Forbidden Journey à Universal, sur le thème de Batman. Alors on est un cran en dessous d'Universal clairement, mais on a une vraie belle immersion, ça marche très 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 bien et c'est vraiment quali. Et puis des dark ride en robocoaster, ça court pas les rues. Il y a les Harry Potter d'Universal, il y a Warner, il y en a quelques-uns en Chine dans des parcs obscurs, mais c'est tout. Et là, c'est vraiment cool de voir un autre thème, et Batman, ça s'y prête super bien, de voir d'autres thèmes exploiter ce type d'attraction. Et là aussi, c'est quelque chose que seuls les Émiratis peuvent se permettre, parce que c'est des investissements de dingue, ce genre d'attraction qui se compte, au moins à 100 millions d'euros. Que ce soit, enfin, tout compris avec le système de transport et tout, on est sur un très très gros investissement. C'est pas quelque chose que Europa Park ou la Compagnie des Alpes pourrait se permettre, par exemple, pour ne citer que.
Ah bon? Attends, voir. Non, mais il faut dire que.
Un scoop.
Allez, lancez les enchères.
Il faut dire que les bientôt au parc Astérix, le bras d'Obélix, là, qui se secoue. Non, mais il faut dire que les parcs de Yas, ils ont, alors, hors le parc aquatique, mais ils ont tous coûté plus d'un milliard de dollars ou d'euros. Donc voilà, c'est vraiment des parcs, ça rigole pas quand ça investit.
Ils ont l'air,
Et d'ailleurs, à noter sur Warner, qu'il y a une zone Harry Potter qui va arriver, dans les prochaines années. Alors c'est, pour l'instant, le contenu n'est pas du tout précisé. Voilà. Mais
je sais pas ce qu'il y aura, mais on peut s'attendre à des choses qui inédites, qui existent pas encore, parce qu'ils ont déjà le robocoaster, donc ils vont pas en remettre un.
De toute façon, ce ne sera pas les attractions qu'on trouve chez Universal, parce que ce n'est pas Universal qui développe.
Du coup, c'est toujours
ce sera des attractions inédites à ce parc.
Le parc a été développé par la boîte Tinkwell, une boîte californienne, je crois. Ce serait encore Tinkwell qui serait au développement des attractions si ils font du Harry Potter, quoi, parce que Tinkwell a aussi développé le studio tour de Londres, je crois, sur Harry Potter, non?
Ouais, je crois que c'est Tinkwell qui s'en occupe. Ouais.
Écoutez, dès qu'on a l'info, parce que je pense que ça n'intéresse que moi, en fait, donc c'est pas grave. À part ça, Seb, il y a un dark ride sur Scooby-Doo qui a l'air absolument trop cool. Est-ce que c'est aussi
cool? C'est la meilleure attraction du parc.
Comment?
C'est la meilleure attraction du parc,
celui-là. Mais moi, je trouve que ça a l'air. Donc, tu peux nous en parler un petit peu parce que c'est un petit dark ride. J'ai pas envie de dire à l'ancienne, mais je sais pas.
Ouais, il est très mignon. Il mélange, ouais, le côté un peu ancien dans le sens où là on a pas d'écran, on a que des animatroniques. Je sais pas si on peut vraiment parler d'animatronique parce que c'est plutôt des statues qui se retournent ou qui bougent un petit peu ou qui bougent
ouais.
éventuellement le bras. C'est très simple dans les animations.
Ouais.
Et on a la modernité par le système de transport puisqu'on a un dark ride avec des véhicules trackless qui partent par groupe de 3 et qui vont se croiser au cours du parcours et puis qui surtout, ce qui est assez marrant, elles vont voir une scène différente à 2 ou 3 occasions. Donc ce qui fait que quand tu refais l'attraction et que tu embarques pas par exemple dans le premier wagon comme c'était le cas à ton premier tour, bah tu vas voir une scène différente. Ça c'est vraiment cool. Et puis t'as aussi une scène que j'adore où tu te balades dans des couloirs. Le truc, la scène classique de Scooby-Doo,
mais oui.
où Scooby-Doo et Sammy se font poursuivre par le fantôme dans plein de couloirs en ouvrant plein de portes différentes. Là, tu suis ça, tu passes par différentes portes et puis tu as un autre véhicule dans lequel tu as Scooby et Sammy avec le fantôme derrière qui se déplace autour de toi. C'est vraiment une très très belle
Comme
attraction.
S'ils étaient dans un véhicule de l'attraction, ils ont... c'est ça.
Ouais, exactement.
C'est humour
méta.
Ils ont vraiment... bien retranscrit l'esprit de
ouais.
du cartoon show. Ils ont été très bons là-dedans. Bah, c'est un petit le côté plusieurs parcours où tu vois pas la même chose, ça rappelle, et même le véhicule pas fantôme mais le véhicule qui se rajoute, ça rappelle un peu Symbolica quoi, c'est un peu des choses
ouais.
que t'as aussi
ouais.
Allez voir le peut-être une vidéo de ce Dark Ride.
D'ailleurs, même constructeur que les véhicules de Symbolica, ETF des Néerlandais.
Ils sont très forts. Évidemment, il faut avoir vu parce que ça commence à dater Scooby-Doo comme référence parce que nous quatre on a peut-être encore un
mais
peu grandi avec, ça passait encore dans les années 90.
Ils ont pas ressorti, ils ont fait des nouvelles versions.
Il y a eu des nouvelles versions, il y a eu des
ouais,
il y a
eu
des
régulièrement,
films.
Ouais.
Ils ont remis à jour le cartoon.
En tout cas, bon. Moi j'ai le souvenir c'était vraiment les trucs des années 60 presque.
Mais oui, l'original
ou 70.
Oh, ouais, l'original ouais, est vieille, ouais. Okay.
En tout cas, cette fameuse scène du hall où toutes les portes s'ouvrent et se ferment et tout, qu'il y avait à peu près dans tous les épisodes. Parce que je ne sais pas si vous le saviez, mais donc c'était Hanna-Barbera, le producteur de ces dessins animés, comme les Pierres à Feu, comme les Jetsons, etc. C'était un type d'animation qui était connu, ou la signature de ce studio, c'était l'optimisation des coûts. C'est-à-dire qu'en fait, ils réutilisaient... il faisait des espèces de boucles de la même séquence pendant une séquence qui fait par exemple 5 secondes allait être répétée pendant 30 secondes parce qu'en fait ça leur faisait 30 secondes d'animation mais qui n'avait ça n'avait coûté que 5 secondes, ce qui était un peu une signature de ces dessins animés où en fait on avait l'impression de voir régulièrement mais dans tous leurs dessins animés la même scène se répéter 20 fois dans tous les épisodes quoi. Et je trouve que cet aspect là en fait a été bien retranscrit dans le Dark Ride avec cette scène des portes qui s'ouvrent et qui claquent. Très envie d'aller tester ça. Donc ça, c'était un de vos tops. Est-ce qu'on passerait...
Oui, sur nos top
oui du flop park alors. Il y en a eu
du flop. Il y en a quelques-uns, je pense.
Bah, les flops, c'était tous les petits trucs un peu minables. Les malls perdus où il y a personne et où tu vas dans un parc rempli de jeux d'arcade et au milieu il y a un petit coaster qu'on vient juste pour faire le crédit.
Comme vous le disiez tout à l'heure, c'est un peu les Family Entertainment Center, etc. Donc plutôt
ouais. Notamment ceux on était dans un nouvel émirat des Émirats arabes unis,
ouais.
L'émirat de Ras Al Khaimah, tout
on l'embrasse d'ailleurs,
au nord de
ouais.
du pays exactement. Et on sentait aussi beaucoup dans cet émirat-là la différence entre Dubaï et Abu Dhabi qui ont l'argent, qui ont investi à fond. Et là-bas, on était plus dans de l'authentique. Il y avait moins les gros buildings, les gros gratte-ciel et tous les attrape-touristes.
Quand tu dis authentique, tu veux dire que c'était mignon ou cheap quand tu dis ça?
Alors, les parcs, c'était pourri.
Oui, parce que authentique, dans le sens, ça peut être positif, mais dans le sens, dans
oui,
les parcs, non.
Je parle plutôt dans...
Ouais.
Tu vois, Trip's Real,
oui,
c'est authentique.
Dans le...
Et c'est cute.
Oui.
Mais on n'est
oui,
pas
non,
sûr.
Non, pas du tout.
Non, ok. On est... Là, merde. Ok.
Autant dit que je disais plutôt dans le la façon dont sont conçues les villes, les miras, où il y a pas le bling bling de Dubaï,
ouais.
où il y a pas grand chose d'ailleurs de plus.
Okay.
Un bon mall bien désert là, c'est ce qu'on aime ça, avec la moitié des boutiques fermées, c'est que du bon ça.
Alors moi j'ai une question pour vous en top et flop.
Ouais.
C'est Motion Gate. C'est top ou flop en fait ce parc, parce que ça a l'air un peu. Il y a du bon et du moins bon. Je sais pas. Vous le classeriez où vous?
Plutôt vers le haut. Après c'est un parc qui vieillit pas très bien. Alors, on va pas se mentir, c'est un parc qui est ouvert qu'en 2017, je dirais. Donc il fait partie aussi d'un resort qui est dans le sud de Dubaï, qui s'appelle Dubai Parks. En fait, c'est un resort qui a ouvert directement avec trois parcs. Parce que pourquoi en faire un, pourquoi en faire deux, autant en faire trois. Donc ils ont un Legoland Dubaï. Ils avaient Bollywood Parks qui est en train de se transformer en parc sur le Real Madrid.
C'est
la garantie. Voilà. Et donc ils ont Motion Gate. Motion Gate, c'est un parc qui est très sympa, qui est très complet. Ils ont une magnifique zone indoor, alors qui est peut-être un peu moins grandiose que Warner Abu Dhabi ou que SeaWorld, mais c'était un peu la première, ils étaient là avant, qui a des très chouettes attractions. Ils ont un super chouette Dark Ride sur Shrek, ils ont un très beau Suspended Coaster de chez Mack dans la lignée d'Arthur, mais plus réussi qu'Arthur, sur le thème de Dragon.
Pardon.
En fait, c'est une zone indoor.
J'attendais. Oupsie.
Je plaisante, bien entendu. Envoyez-moi des invitations pour Voltron et ça ira. Et ouais, non, il y a une zone Madagascar avec un petit coaster Gershauer, un launch Gershauer qui est très punchy. Et puis ils ont encore une zone sur Kung Fu Panda. Et puis après le reste, ils ont une partie sur le studio Lionsgate, donc qui a fait notamment Hunger Games, et puis des films, bon, pas
bonne ambiance pour une petite journée au parc d'attractions, un thème Hunger Games, non?
Ouais, j'avoue.
Allez!
Il y a une zone Schtroumpf, et puis il y a une zone sur les licences Sony avec, alors, Ghostbusters.
On l'a réveillé.
Il y a un petit Dark Ride qui est plutôt mignon, et un petit Family Coaster.
Ah, petit Dark Ride Schtroumpf, moi je prends, moi, oui, on passe dans le village.
On les retrouve bientôt chez Plopsa d'ailleurs.
On te passe la Schtroumpf là.
Oui, à Holiday Park notamment.
Il y a vraiment la Schtroumpf Lala? Non, pas la Schtroumpf Lala en vrai, si? Dans le parc?
Non, il y a la musique, ils chantent pas la Schtroumpf Lala.
Mais
il y a
petite déception.
Il y a l'orchestral, on va dire. Et puis ils ont la zone Sony, il y a Hôtel Transylvanie, il y a Tempête de Boulettes Géante, et ils ont un Dark Ride Ghostbusters, tu dis un Dark Ride Interactive Ghostbusters, donc c'est comment rater ça? Eh ben, il est raté. Voilà.
Comment rater ça? Oui et non, parce qu'il y a beaucoup d'effets. Enfin, Ghostbusters, il faut que ça soit bien réalisé quand même, quoi. C'est quoi, alors? En quoi c'est pourri?
Eh ben, ça n'est pas le cas. Ça fonctionne pas.
Ouais.
Les écrans sont très mal intégrés. C'est assez chipouille, en fait. Ouais. Mais en fait, le parc est un peu bizarre parce que dans l'ensemble, c'est quand même plutôt quali, les décors, tout ça. Enfin, tu sens qu'il y a eu du budget. Mais en fait, la zone DreamWorks, donc la zone indoor DreamWorks, un large cran au-dessus de tout le reste. En fait, le parc est assez déséquilibré. On voit que DreamWorks a été beaucoup plus attentif sur quant à la qualité de ce qui était réalisé, et que par contre Sony ou Legendary étaient beaucoup moins regardants, quoi. Donc il y a un gap entre les différentes zones du parc. C'est assez bizarre. En fait, la zone DreamWorks, ça pourrait être un parc à part entière. Ça serait un super bon parc.
Ok.
Le reste du parc est beaucoup plus moyen, en fait. C'est bizarre.
Tu vois ça notamment sur un coaster, un petit coaster de Gershauer qui est sur le film Green Hornet, gros succès au cinéma, où t'as une file d'attente un peu thématisée, et puis l'extérieur, il y a rien du tout. Tu sens que le truc a été fait pour être dans une boîte thématisée en intérieur, et puis ils ont coupé les budgets. Et puis on sent aussi qu'il y a eu du budget, il y a eu des belles choses au début à l'inauguration, et puis ils ont ajouté des nouvelles attractions qui ont ouvert en 2022, qui étaient destinées à la base pour un autre projet de parc de ce resort qui n'a pas vu le jour, Six Flags Dubaï, sauf que là le budget était beaucoup plus réduit sur tout ce qui est théma. Alors ils ont réussi à faire un truc correct, ces deux coasters sur le film... John Wick.
Insaisissable, l'autre.
Insaisissable, voilà, je cherchais la version française.
C'est quoi Insaisissable?
No You See Me, en anglais.
Ah oui, d'accord.
No You See Me.
Avec Leonardo.
Le magicien.
Je confonds. Je confonds avec Catch Me. Oui, No You See Me, il y en a eu un deuxième aussi, oui, avec la grosse bande de magiciens, là, un peu Ocean's Eleven de la magie.
C'est ça. C'est ça. Et donc ça, sur ces nouveautés, tu sens que, il y a eu de la coupe budgétaire entre les deux.
Et il y a pas aussi un truc, enfin moi c'est j'y suis pas allé, mais vu de l'extérieur, j'ai l'impression que c'est un peu les licences, les IP dont enfin les IP qui étaient dont personne d'autre ne voulait, enfin ou qui étaient pas encore exploités dans un parc quoi, parce que bon, Green Hornet c'est un succès, mais bon c'est pas non plus
hein, Green Hornet tu... c'est réalisé par Michel Gondry.
Je sais pas trop comment ils ont.
Parce qu'en fait, il y a un truc avec les IP, c'est que c'est quand même pour attirer les gens sur des marques connues, mais finalement, si c'est pour le faire sur Green Hornet ou Hunger Games, qui était énorme, mais le faire quand même quoi, quasi 10 ans après, non, Hunger Games, non, c'est énorme.
Non, c'est sorti, c'était encore.
Ouais, mais hype. Mais après, je sais pas trop comment le parc s'est monté, parce que tu vois, DreamWorks, Sony, Legendary, c'est pas des studios qui ont, enfin, tu vois, c'est pas comme Universal ou Disney où c'est que d'Universal et que Disney. Là, c'est trois studios qui n'ont pas de lien.
Ils n'ont pas d'expertise les uns avec les autres, parc, et... tu veux dire.
Non, non, c'est pas forcément ça. Ils ont pas le lien les uns avec les autres. Et les Schtroumpfs, je sais même pas qui est l'ayant droit de, enfin, ça doit être la famille Peyo, à la base. Mais,
oui.
Je sais pas qui détient ça.
Okay.
Mais ouais, on sent qu'il y a pas forcément une communication, et de direction artistique globale, quoi. On sent que DreamWorks a eu beaucoup plus d'argent, beaucoup plus de soins que le reste. Mais, comment ça se, mais je pense que, enfin, si tu prends Sony ou Legendary, ils ont mis leur plus grosse licence. Après, c'est juste qu'ils ont pas des licences folles, quoi. C'est voilà.
Bah les Schtroumpfs, c'est chez Sony, piocher... non.
Ouais. Et je pense qu'après ils ont essayé.
Chez Sony, mais les ayants droit et IMPS qui ont toujours les ayants droit de Payo.
Après, je pense qu'ils ont aussi essayé de faire des zones. Tu vois, Legendary, donc c'est Hunger Games, c'est Now You See Me, c'est John Wick. C'est des licences qui sont un peu plus adultes. DreamWorks, les Schtroumpfs. Lionsgate, oui, pardon, Legendary, c'est pas du tout ça, Lionsgate, autant pour moi, donc c'est beaucoup plus, on va dire, ado-adulte, DreamWorks, c'est familial, les Schtroumpfs, c'est plutôt petits-enfants, et Sony, c'est un peu, c'est aussi plus adulte, déjà, quand même, quoi qu'il y a Hotel Transylvanie, bon, c'est un peu un mix, et Tempête de Boulettes, c'est un peu un mix, là, mais je sais pas si, voilà, ils ont essayé d'équilibrer, qu'ils trouvaient aucun studio qui avait suffisamment pour faire un parc complet... ouais, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé.
Je pense que les plus grosses licences elles sont déjà prises dans le milieu des parcs, c'est Disney, Universal, c'est Warner, et après quand tu regardes le reste, il reste plus grand chose.
Et du coup est-ce que c'est
t'en as quelques-unes chez Sony, t'en as quelques-unes à droite à gauche, t'as DreamWorks qui est un gros studio d'animation mais qui maintenant appartient aussi à Universal. Donc ouais, c'est qu'il reste plus grand chose, faut un peu se battre avec les miettes.
Et puis ouais, en parallèle, parce que c'est un parc qui est ouvert en même temps, plus ou moins, que Warner à Abu Dhabi, donc avec licence Warner. Et il y a aussi un autre parc indoor à Dubaï qui s'appelle IMG World of Adventure, qui a les licences. Qu'est-ce qu'ils ont ? Ils ont Marvel, ils ont Cartoon Network. Ouais, et je crois que c'est tout en licence, enfin en IP, on va dire ciné. Mais voilà, en fait, mine de rien, si tu regardes sur les Émirats. Ok, il n'y a pas Disney, il n'y a pas Universal. Il y a eu un projet d'Universal avant la crise de 2008, mais qui a pris le sable, on va dire. et puis Disney n'a jamais souhaité s'implanter là-bas. Mais voilà, tu peux te dire que tous les autres studios, plus ou moins, sont présents. Donc chacun a un peu choisi son parc et puis voilà.
Oui, mais enfin c'est ça. Je reviens là-dessus, mais si tu veux faire vraiment un parc sur le cinéma et comme c'est un thème de parc qui est quand même encore enfin tu vois qu'on voit à gauche à droite aujourd'hui, si c'est pour le faire sur des licences qui résonnent si peu, enfin c'est comme tu vas dans les parcs movie park en Allemagne, bah tu te retrouves sur des licences qui sont pas ouf ou pas méga bien exploité parce que le parc avait pas les... enfin je sais pas en fait, soit tu le fais à fond avec les moyens qu'il faut pour que ça rende hommage au contenu de base, ou alors ça fait directement cheap parce que tu vois que ça ressemble pas à la qualité du film et du matériau de base, quoi. Je sais pas si c'est clair ce que je...
après je sais pas ce qui s'est passé comme il y a en coulisses, toi, quelles ont été les discussions avec les ayants droit, parce que bon bah t'imagines bien qu'une licence comme Harry Potter c'est pas le même prix qu'une licence comme Tempête de boulettes géantes, quoi.
Qui est un très bon film au demeurant. Donc, Tempête de boulettes géantes.
Oui, qui est fait par les créateurs de la grande aventure Lego et des derniers
Tout
Spider-Man.
À fait. Ah. Attends, les Spider-Man Into the Spider-Verse, les dessins animés ou les...
Ah, ouais, c'est ça.
Incroyable,
ouais.
Il faut regarder ces films, absolument.
Exactement, faisons de la pub. Non, c'est deux très chouettes réalisateurs. Mais ouais, je pense que c'est une histoire de, bah, de droit, de quelle licence est prête à donner ses droits, combien ça coûte. Enfin, je pense que c'est plutôt de là, de ce côté-là qu'il faut regarder. Parce que je, enfin, j'imagine que quelqu'un qui dit, OK, on va faire un parc sur le cinéma, s'il avait le choix, il préférerait avoir Avatar, La Reine des Neiges et Le Seigneur des Anneaux, que Tempête de boulettes géantes, Green Hornet et je sais pas quoi. Donc, d'ailleurs, je pense qu'il y a un très bon épisode sur les IP, sur la file d'attente.
Eh
C'était notre
oui,
avec un
Paula, il
guest,
est vieux
ma foi,
l'épisode.
fort intéressant.
Ouais.
C'est vrai, c'était le premier, incroyable.
Premier épisode.
Il y a un charme
Écoutez,
quand même
c'est
un peu
passionnant.
désuet à faire des parcs comme, enfin, moi j'ai rien contre ces IP un peu, comme tu dis, un peu, bah, désuet, un peu
Bas de
dépassé,
gamme, en
parce
fait,
que,
un peu.
mais pas bas de gamme, c'est-à-dire que c'est généralement c'est juste des trucs qui sont has-been, quoi. Et pour moi, je trouve que c'est un peu marrant de s'y replonger de cette manière-là, quoi. C'est-à-dire que surtout pour les parcs, comme tu disais, Julien, qui ont pas de direction artistique claire, c'est-à-dire que c'est un peu une accumulation de land ou d'attractions qui ont pas grand-chose à voir les unes avec les autres. Et je vais pas trouver un truc comme tu dis Scooby-Doo, alors même si ça a été rebooté, mais effectivement c'est un peu old school, ou Green Hornet. Bah je sais, enfin j'ai dû le voir quand il est sorti, mais je m'en souviens plus du tout. Mais je sais pas, j'ai l'impression que c'est ça te redonne un peu goût à ces trucs-là, enfin voilà, et puis c'est moins cher effectivement, mais voilà, j'ai rien contre en tout cas.
Alors, on a
Après, ne dénaturons pas Motion Gate. Hein. Comme l'a dit Julien, il y a des trucs très très bien. La zone DreamWorks, elle est vraiment incroyable, notamment cette attraction Dragon, mais qu'on n'a pas pu faire puisque elle aussi, elle était
Ah non, et
fermée.
l'attraction d'Ardon, elle est cool pourtant, non? C'est quoi? C'est un coaster
Ouais,
aussi.
elle est géniale.
Ouais.
C'est ça, c'est un suspended
Bah oui.
powered coaster comme
Powered.
Arthur.
Au moins bien, donc, hein. On est bien d'accord, c'est
Oui,
ça?
évidemment, évidemment. Avec une super histoire, avec une belle, des très très beaux décors. Mais voilà, c'est le problème de ces parcs-là, ces gros parcs qui sont ouverts 365 jours par an, comme Disneyland ou Efteling. Il y a un moment où il faut qu'ils fassent la maintenance de leurs attractions, donc il y a des périodes où des attractions sont fermées,
Faites ça la
malheureusement. Et
nuit,
donc on est
alors,
tombé en
les
plein
gars,
dedans.
faut bosser un petit peu là. Pop, 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 pop. Non, évidemment, ça doit être. Et là, c'était en maintenance ou c'était vraiment.
Ouais, c'était de la maintenance. Enfin,
Ok.
a
Oui,
priori,
ils
hein,
disent
on voit
toujours que
que
c'est
c'était de la
maintenance
maintenance
quand le
programmée.
truc est pété
Ouais.
et qu'il manque la pièce, quoi. Hein. Hey,
Oui.
ça va.
Bon, dommage.
Non,
Dragon,
après,
pourtant, c'est une licence qui est
j'avais
encore
un autre flop.
à l'heure du
Ah,
jour,
pardon.
justement. Enfin, qui est toujours d'actualité, quoi. Ils vont en sortir encore
De toute
un autre,
façon, ils vont
non?
faire la zone à...
Non, il y a
Bah, ils vont faire la zone à Epic
la
Universe,
zone
ça c'est sûr.
Universal, c'est ça. Ouais, bien
Je crois
sûr.
pas qu'il y ait de
Ouais.
nouveaux films prévus pour l'instant, mais bah bon, ça, ils auront bien, une fois qu'ils auront plus d'idées, ils auront aucun mal à rebooter tout ça.
Ouais. On se fait
Et
pas
puis voilà,
de.
je ne me fais pas de crainte pour les studios hollywoodiens
Non,
quand
non,
il s'agit de faire des suites, de suites, de suites.
dites, on a passé en revue les
Ouais,
roller coasters et les
mais
parcs. On a fait les tops, les flops.
je
Ah,
voulais quand
pardon.
même parler d'un autre flop,
Surtout,
excusez-moi.
parlons-en.
Je voudrais parler. Ouais, voilà. Je voudrais parler de Sheikh Zayed Festival, qui me permettra en même temps de parler d'un autre parc. Tu vois,
D'accord, c'est
c'est double
magnifique.
feature. En fait, à Dubaï, il y a un parc, alors, qui est, je sais pas, parc, oui, c'est un parc, enfin, bref, qui s'appelle Global Village, qui est un endroit, enfin, qui je trouve est un des endroits les plus sympas de Dubaï à visiter. Alors, comment dirais-je ce truc? C'est une espèce d'énorme festival, qui fait 6 millions de visiteurs en 6 mois. Donc, il y a du monde. L'entrée est pas chère du tout. Alors, les parcs à Dubaï sont très chers. Hein. Ferrari, c'est
Ah oui.
enfin, les parcs de Yas, c'est 81 euros l'entrée, un truc dans le genre.
Ouais, ok.
Là, c'est 5 euros. Et après, il y a une espèce de petite fête foraine où tu paies à l'attraction. Mais à côté de ça, il y a des pavillons. Alors, c'est marrant parce que c'est tous des pays où nous, on est là. Enfin, tu vois, il y a le pavillon de l'Iran, de l'Ouzbékistan, enfin, bah, plutôt de cette
Afghanistan,
partie, de
Syrie.
cette partie-là du monde. Beaucoup de pavillons musulmans, bien entendu, qui sont représentés avec des décors en papier mâché, mais dignes des expositions universelles du début du XXe siècle. C'est-à-dire des machins qui font 20 mètres de haut, hyper
Chargé, ouais.
clinquants, enfin, c'est hyper chargé, mais ça a un charme assez bizarre, enfin, ouais, c'est étrange, et en même temps, il y a un monde, il y a toujours du monde là-bas, t'as vraiment... Bah pour une fois, t'as de l'ambiance, t'as plein de bouffe partout, et c'est vraiment les locaux qui viennent.
OK.
Ce qui n'est pas du tout le cas des autres parcs aux Émirats, où c'est plutôt, on voit plutôt les expats surtout et les touristes. Là, c'est vraiment, c'est les locaux quoi.
Ouais,
Alors bon, pas forcément les Émiratis.
J'ai vu quelques vidéos justement pareil du gang à Valentin et Dubik de ces trucs là, ça m'a bluffé quoi. Je savais pas du tout que ça existait, et comme tu dis, c'est assez ça fait un peu mégalo quoi comme installation. C'est un truc qui est tout est gigantesque, il y a des lumières incroyables le soir. Ouais. Et ouais, ça a l'air complètement fou. Et du coup, tu fais quoi là-bas? Tu c'est surtout pour la bouffe et pour les spectacles, ou t'as aussi des attractions?
Ouais, c'est un lieu de sociabilisation, comme il y en a finalement assez peu à Dubaï.
Ouais.
Et t'as beaucoup de bouffe. Et en fait, dans chaque pavillon, t'as une espèce de souk en fait qui vend.
C'est un Epcot géant quoi.
Plus,
la Kaamelott.
Voilà, qui vend quand même un peu de Kaamelott, mais le souk, c'est quand même c'est dans la culture locale. Hein. Ouais. Et voilà, dans chaque pays, t'as, je sais pas, une cinquantaine de stands, comme un marché de Noël en gros, mais qui vend.
Mais
tout,
qui se spécialise.
De l'électronique, des trucs made in China.
Ah oui, d'accord. C'est pas un truc.
Pas forcément en rapport avec le pays.
Ah oui, c'est pas l'artisanat.
C'est pas de l'artisanat, c'est vraiment de la Kaamelott, c'est ça que tu dis. Ouais, ok.
C'est le souk, dans toute sa splendeur.
Très bien. Oh, ok.
Et donc j'en arrive à mon flop parce que ça c'est à Dubaï, et à Abu Dhabi le Cheikh a voulu faire la même chose et donc a créé le Cheikh Zayed Festival. Donc Cheikh Zayed, c'est le je crois que c'est l'unificateur des Émirats Arabes Unis, donc son nom est à peu près partout, et son nom et sa tronche sont à peu près partout. Et donc ils ont fait la même chose, mais je pense que c'est beaucoup plus récent que Global Village, parce que Global Village ça doit quand même faire près de 15 ans que c'est là. Et alors du coup là par contre c'était super super glauque, c'est énorme, ils ont un parking mais gigantesque, tu te dis qu'ils prévoient d'accueillir des millions de visiteurs, pourtant on était vendredi soir je crois, donc plutôt fin de semaine, il n'y avait personne et c'était mais glauque au plus. Alors, il y avait beaucoup de portraits de son Altesse, sa Majesté, ou je sais pas quel est son titre honorifique, mais alors le reste, les attractions, c'était la catastrophe. Déjà il y avait un coaster interdit aux adultes, que rien que ça c'est une honte. Et puis ouais, et puis le reste c'était tu sentais l'inspiration, mais il y avait encore un peu de chemin à parcourir.
Mais c'était quoi, c'était vraiment le même concept de pavillon qui représente les trucs? Et
ouais, mais sans aucun moyen quoi, c'est-à-dire que là où à Global Village t'as des façades de 20 mètres de haut, là, t'avais un petit poster avec écrit
poster.
Là, c'est la Chine.
Ah, ok,
quoi.
Nul. Ouais. ok. Donc très très cheap. Ok. Et ça s'appelle comment, rappelle-nous?
Cheikh Zayed Festival.
Cheikh Zayed Festival.
Et en plus, c'est en dehors d'Abu Dhabi. Alors on y a été de nuit, donc tu te rends pas trop compte de ce qu'il y a autour de toi. Mais tu sors petit à petit d'Abu Dhabi. Tu vois, des grands immeubles, tu passes au espèce de lotissement d'habitation, et puis à un moment, il n'y a plus rien. C'est le désert, et puis au milieu, t'as ça, ça brille de mille feux, je sais pas, 5 kilomètres avant, tu le vois déjà, ce truc. Et en fait, voilà, quoi.
Écoutez, alors on n'ira pas, du coup, voilà.
Oui, je ne recommande pas, voilà. Ou peut-être dans 10 ans, quand ça sera devenu un haut lieu de l'entertainment,
oui,
à
Bouddha. C'est ce qu'on leur
souhaite. À Biot, à Bouddha Dabit. Vous voyez ce que je veux dire.
Ok. Bon. Attends, on était sur les quoi?
Les flop parcs.
Les flops, là, on a fait. Moi j'avais, envie de vous demander, je sais pas s'il y a beaucoup de dark ride là-bas, on a parlé des coasters, mais est-ce que vous avez, d'ailleurs, on a parlé un peu des top dark ride d'ailleurs à Warner Bros.
Ouais, on a déjà beaucoup parlé.
Des flops,
exactement, les top dark ride des Émirats sont en effet à Warner. On a parlé de
et pas Ferrari World. Hein. Bon, là, c'est les flops dark ride.
On est plutôt
hein.
dans les flops. Mais dans les tops, je mettrais aussi, alors Dark Ride, je compte aussi les attractions media based.
Ouais.
Je compte aussi un Flying Theater au Qatar qui s'appelait, j'ai son nom sous les yeux quelque part.
Wings of Destiny, je crois, de mémoire. Pas ça?
C'est exactement ça. Tu es trop fort.
Ouais, tu vois.
Qui se trouve à Doha Quest, ouais. Donc un parc indoor dans un centre commercial. Donc voilà, c'était un beau Flying Theater, un Dynamic Attraction, encore une fois, avant qu'ils mettent la clé sous la porte, qui nous fait une petite histoire sur un inventeur fou qui invente une machine à voyager dans le temps. Et puis ça nous permet de voyager au-dessus des plus beaux paysages du Qatar. C'était une belle surprise, voilà. Je m'y attendais pas et du coup j'étais content d'avoir fait ça.
Est-ce que c'était des prises de vue réelles ou c'était de la 3D ou un mélange des deux, enfin de la CGI, je veux dire.
CGI.
Tout en CGI. CGI, ouais, qui signifie ouais. Donc tout en images de synthèse. Il y avait des lunettes.
Computer generated images.
Oh, impressionnant. Ouais, lunettes 3D ou pas lunettes 3D? Non.
Lunettes 3D.
Est-ce que ça, un flying theater avec des lunettes 3D, je n'en ai pas encore fait, figurez-vous.
Bah, tu as aussi celui de Warner qui est en 3D, okay. Avec Green Lantern.
Je trouve que ça apporte pas forcément grand chose. L'écran hémisphérique est déjà suffisamment immersif pour.
Ça me fait penser.
Par contre, je peux vous recommander, c'est mon instant promo, le Flying Theater avec projecteur laser qui vient d'être installé à Voletarium. C'est vachement bien.
Laser.
Dans une des deux salles. Hein. Attention, il faut choisir la bonne salle.
Attends, la conférence. Mais si, s'il te plaît. On enregistre la conférence de presse a lieu demain. T'es en train de. C'est très.
Oui, mais ça, de toute façon, on le dit pas dans la conférence de presse. C'est une petite nouveauté sur les 60 qu'on annonce.
Ce sera dans la vidéo des nouveautés.
Même pas.
Pardon? Mais bon.
Même pas. C'est tellement. Ah, bon. On a pas d'image à montrer, donc. Bon.
Écoutez, alors c'est un scoop fil d'attente, si je comprends bien.
Exactement.
Mais ça, on va le placarder partout, cette histoire de laser à Voletarium.
En Dark Ride, je pense qu'on pourrait parler aussi vite fait, parce que je vois le contact de Shrek à Motion Gate, qui est plutôt top. En fait, qui a un Dark Ride avec, donc, qui raconte, en fait, l'histoire du premier Shrek, vraiment.
Je vois de quoi tu vas parler.
Et avec un parti pris artistique assez intéressant, c'est-à-dire qu'ils ont représenté les personnages sous forme de marionnettes. Pinocchio, mais
donc avec les
donc
les
ça commence avec première scène
au plafond quoi.
Voilà, la première scène, on a les personnages enfin en résine, on va dire, mais avec leur vraie forme, et donc en fait, ils font un show de marionnettes pour leurs enfants, et donc ils racontent l'histoire comment papa et maman se sont rencontrés. Et donc là, ça part en marionnettes.
Un peu comme si les marionnettes étaient du bois sculpté un peu, c'est ça hein.
C'est ouais. Ça, ouais. Ouais. C'est très et donc, bien. Du coup, il y a toute la voix off de Shrek qui raconte l'histoire. Ça marche assez bien, en fait.
Ça a l'air très, très mignon. Mais justement, non.
Et il y a notamment la scène avec la petite chanson du Loch est un monde parfait. Je sais pas comment c'est en anglais, qui est reproduite telle quelle, avec la boîte qui s'ouvre et puis les petites poupées là avec cette superbe chanson.
Comme on est dans les Dark Ride, je sais que là tu parles d'un Dark Ride top, et que tout à l'heure on a aussi parlé du Dark Ride Scooby-Doo et Transylvania qui ont l'air plutôt tous très très mignons, mais quand je les regarde en vidéo sur YouTube, alors dites-moi si c'est plus parce que c'est jamais qu'une vidéo ou si c'est aussi comme ça en vrai, y a parfois j'ai l'impression des espèces de temps mort, de temps vide, un problème de pacing un peu, ou est-ce que c'est juste que ça rend moins bien sur internet et que tout va bien en vrai. Vous voyez ce que je veux dire ou pas?
Ou ça, Shrek?
Mais j'ai l'impression que sur la plupart des Dark Rides de ces grands parcs, sur Shrek, j'y pense, Transylvania et même Scooby-Doo en fait.
Oui, les Dark Rides sont conçus comme tu vas de scène en scène et c'est vrai que parfois il n'y a pas grand chose entre les scènes.
Ouais. Les décors sont souvent assez épurés. Enfin, c'est pas des. Ouais. Tu vois, c'est pas comme les Dark Ride Europa Park ou.
Qui sont les meilleurs du
même,
monde.
Tu vois, Efteling. Bien entendu. Évidemment. À Europa Park, je précise. Tu vois, où t'as toujours du décor. Là, c'est vraiment, c'est plus. C'est un peu des vignettes, souvent, leur Dark Ride. C'est-à-dire que. Mais pour autant, c'est assez bien fichu. Enfin, je trouve pas que ce soit un défaut.
Ok. Alors, moi, je veux les flops. Parce qu'un Dark Ride qui flop, ça, c'est vraiment très très cringe et vous ne me ferez pas croire qu'il y en a pas.
Oh, si, j'en ai un. Un mix de Splash Battle et de Dark Ride qui se trouve au Qatar à Angry Birds World, donc un parc entièrement dédié à la licence Angry Birds.
Faut pas faire.
Déjà c'est cool.
Et donc c'est on savait pas que cette licence existait encore.
Qui joue encore Angry Birds, c'est fou.
Pourquoi pas sur Fruit Ninja?
Moi dans l'avion.
Bref, oui, on t'écoute.
Et donc c'est un splash battle, donc ces attractions en bateau sur un canal où t'as des pistolets où tu tournes la.
Quel constructeur, s'il te plaît? Peux-tu préciser le constructeur?
Évidemment.
Mais il est payé à chaque fois qu'il dit McRae. Et à quel moment nous on est payé?
T'entends pas le cling?
Et donc, ils mixent ça, donc ce système de canon à eau où tu tournes la manivelle pour vous générer de l'eau avec un système de baguette magique à côté. Donc, t'as un canon à eau et une baguette magique. Donc, t'as double interactivité.
Une baguette vraiment magique.
Aucune des interactivités ne marchait. Rien ne marchait, vraiment.
Est-ce que c'est pas parce que c'est difficile à manipuler deux types de mouvements différents et que finalement on arrive à faire aucun des deux, comme le fameux truc que je vais... Vous voyez ce que je veux dire?
Tu dis que Sébastien est nul, c'est ça que t'es en train de dire en fait.
Oui, c'est ça.
Alors on n'a pas fait la baguette magique, hein. C'est pas Macrae la baguette magique, c'est d'autres gens.
Je pense que c'est la Gotronix, la baguette.
Mais attends, c'est quoi? Qu'est-ce qui est censé se passer si ça fonctionnait correctement?
Oui.
Bah, en gros, t'as une baguette magique qui comme un pistolet sur Buzz ou sur n'importe quel Darkrai interactif, tu vises des cibles et puis il est censé se passer un truc. Quoi, on sait pas puisque ça marchait pas. Ouais. Et puis après, tu as la partie en extérieur où là, tu as les canons à eau qui s'activent, où tu es censé viser les autres. Bon, bah là, il y avait un canon sur quatre qui marchait. Voilà.
Ouais, toujours frustrant.
Ni fait ni à faire.
Et en autre Dark Ride bien merdique, je pense qu'on va citer aussi Speed of Magic à Ferrari World, qui est une bonne grosse bouse. Et alors, tu dis, c'est un Dark Ride qui utilise les véhicules de Spider-Man. Donc, ce sont des véhicules qui coûtent quand même assez cher. Et les gens qui l'ont conçu n'ont juste pas compris le principe d'un Dark Ride 4D. C'est-à-dire qu'en fait, ils vont de scène en scène. Donc, c'est à chaque fois des écrans arrondis, comme à la fin de Spider-Man. Ouais. Et en fait, ils te font une séquence de simulateur. Ça s'arrête, tu passes à l'écran suivant, et t'as la séquence de simulateur suivante, et tu passes à l'écran suivant. Et en fait, tu dis, mais pourquoi vous avez pas fait un simulateur? Ça vous aurait coûté beaucoup moins cher, pris beaucoup moins de place. Ouais. Et non, ils ont fait un Dark Ride. Et c'est vraiment très mauvais.
Y a pas de squinching?
Non, y a rien du tout.
Mais t'as quand même des lunettes 3D ou...
Ouais, je crois, ouais. Je sais pas. Je crois que c'est un Dark Ride. Je le fais à chaque fois que je vais à Ferrari World parce que j'ai oublié ce que c'était. Enfin, je sais ce que c'était, mais je m'en rappelle plus suffisamment. Donc, je dis, bon, ok, de toute façon, il y a personne, on va le refaire, ça ira vite. Et à chaque fois, je me dis, mais,
n'y allez pas.
Voilà. Enfin, vous aurez le temps d'y aller, mais n'en attendez pas grand chose, voire.
Speed of Magic, très bien. Dites, on parlait de 3D tout à l'heure, ça me faisait penser à un truc, donc je me permets une petite digression. Vous avez vu que Universal est en train de tuer la 3D sur toutes ses attractions 3D, en fait. Là, ils l'ont... c'est un véritable drame.
Oh non, non, non.
Ils l'ont fait récemment, dernièrement, sur King Kong Skull Island, donc les espèces d'énormes camions. Ils l'ont fait plus récemment, il y a plus longtemps sur cet horrible Dark Ride Fast and Furious Supercharged. Et je me demande s'ils l'ont pas aussi fait sur Moi Moche Méchant les Mignons. Bon bref, on sait pas trop pourquoi, mais en fait apparemment retirer la 3D sur un truc comme King Kong est très très foireux, puisqu'en fait un écran sur lequel un écran 3D, donc les médias qui sont générés en 3D pour que quelqu'un ait l'air d'être tout près de toi, la personne fait littéralement 20 mètres de haut sur l'écran quand tu enlèves les lunettes 3D, donc ça ne marche pas. Voilà. Donc je sais pas où ils vont avec ça, je sais pas si c'est juste
Ratatouille, j'ai entendu aussi que Ratatouille à Paris, non? Ils ont pas aussi essayé de faire des tests?
Oui, ça c'est plus apparemment une question de maintenance. Je vois que ça pouffe. Apparemment Ratatouille, c'est vraiment une question de tous les ans, il taffe sur je sais pas quel projecteur et il tape le truc en 2D, mais c'est pas voué à disparaître complètement apparemment.
Puis surtout les films 3D ont été faits toujours avec cette intention là en tête, et t'as toujours des scènes qui sont, et il y avait une, je me souviens à l'époque quand c'était la mode au cinéma et même les télés 3D, il y avait effectivement toutes ces bandes annonces qui essaient de te vendre de la 3D évidemment sur un écran 2D. Il y avait une compilation YouTube comme ça qui m'avait fait beaucoup rire, où c'était toutes les pubs avec forcément, tu sais, un bras qui t'arrive dans la gueule. Il se passe toujours des trucs dans des scènes, des films qui étaient vraiment prévus pour la 3D. Je me souviens un truc alors complètement obscur, mais Harold and Kumar Christmas, où tu vois, c'est que tu vois, t'as une balle de ping-pong qui t'arrive dans la gueule, et tu vois, tu te dis, ça n'a aucun sens en fait ces scènes-là si c'est pas prévu pour la 3D, quoi, espèce de truc ultra exagéré. Et c'est pareil dans les attractions, quoi. Donc si tu retrouves pas cet effet-là, c'est vrai que ça perd tout l'intérêt, quoi, et ça c'est limite ridicule. Dommage.
Je n'aurais qu'un mot à la bouche. Arnaque.
Merci.
Arnaque, et oui.
Enfin.
Tout ça pour gagner du fric, hein.
Ah ben d'ailleurs, parlez-nous peut-être de la plus grosse arnaque de votre voyage.
Ah oui, très bonne question. C'est ça.
Alors moi je parlerai des canalisations d'évacuation des eaux sur les autoroutes de Dubaï quand il pleut.
Ah.
Et de manière générale, les étanchéités aussi, c'est pas trop leur truc. Eh ben, il s'est avéré le dernier jour où on était à Dubaï, il devait pleuvoir. Et alors, bon, ils ont commencé à annoncer un peu partout que ça allait être le déluge. Bon, bah, je sais pas, pour moi c'était une pluie. Enfin, toi Guillaume qui est belge, c'est la vie de tous les jours.
Hélas.
Bon, eux le problème c'est que la pluie ils savent pas ce que c'est. Et puis je pense que bah les canalisations, oui c'est vrai. Les canalisations, bah faut pas forcément vérifier tous les jours, sont peut-être un peu bouchées par le sable. Toujours est-il que bah l'eau
de merde ou qu'est-ce que l'eau a passé
voilà. Non mais l'eau a monté. Et puis bah comme on savait qu'il allait pleuvoir, on est parti faire la tournée des malls et des crédits improbables. Et bah on s'est un peu retrouvé bah les pneus dans l'eau quoi,
ah,
on va
oui,
dire.
Très bien.
Oui, on avait parfois un petit peu peur que la voiture ne prenne pas un peu trop d'eau dans le pot d'échappement et se noie. Et
à ce point-là,
pour
c'est
compléter,
sur une route normale quoi,
en fait,
sur
ouais.
Putain, c'est ouf.
Ah bah oui, il y avait un bon je sais pas
sur les autoroutes hein, enfin même.
Ouais, sur les autoroutes ou les routes de ville. C'était assez hallucinant. Donc
ouais,
plein
plus
d'autoroutes
par endroit,
on
a dû avoir pas loin de 30 centimètres par endroit.
Ouais.
Là, on a été le plus coincé.
Des autoroutes fermées, des bouchons partout, ce qui nous a malheureusement empêché de faire certains crédits en extérieur. Notamment, on devait aller dans les montagnes très loin faire un alpine coaster, donc ces fameuses luches d'été sur rail dont je parlais tout à l'heure, qui paraît-il est vachement bien, mais il pleuvait, donc c'était pas ouvert. Et pour compléter sur la pluie, c'est pas juste il pleut par hasard. Ils ont en fait là-bas, vu que la pluie est très rare, dès qu'ils ont des nuages, que le temps est un peu couvert, ils vont envoyer des avions et ils vont faire ce qu'ils appellent du cloud seeding.
Ouais.
Ils envoient des avions qui vont disperser du sel dans les nuages pour générer la pluie pour qu'il puisse pleuvoir dans le pays, sauf que le pays est pas prévu pour ça.
Attends, il faut que tu me dises, écologiquement, c'est bien ou dégueulasse?
Non, parce que ça doit être bien, ça doit être bien.
Mais...
Je m'inquiète
pas. Le but, c'est de, parce qu'il faut qu'il pleuve pour une raison XY, et donc il faut la faire tomber,
Pour faire pousser les carottes dans les potagers, Guillaume, enfin.
Bon.
Non, si je crois qu'écologiquement,
tu vas dans les malls.
Je sais pas si c'est un problème, mais
quel est le but à la base,
Bah, t'as besoin quand même de.
Généralement, j'imagine que les nuages, quand ils se forment, ils doivent aller quelque part. Tu vois, s'ils avaient pas fait leur truc, bah, ils seraient allés chez le voisin. et le voisin qui avait désespérément besoin de pluie, tu vois, genre le Yémen, qui est un pays un peu plus court. Dubaï à tout prix.
T'es en train de dire que Dubaï vole les nuages du Yémen, c'est ça que tu dis, la pluie.
Oh, j'en sais rien. Non, c'est pas juste à côté des Yémen.
Non, mais c'est
non,
pour
mais,
réguler.
Mais tu vois, enfin, on était
Guillaume,
dans...
je sais pas la réponse exacte, mais c'est pour réguler un peu, enfin, avoir plus de contrôle tout simplement sur le climat, faire pleuvoir à certains moments et pas à d'autres. Et voilà, c'est des technologies assez
fortes, si tu veux de la pluie, t'as qu'à installer tes parcs en Belgique, là, à Charleroi, par exemple. Il y a une belle friche industrielle, je crois.
Oui.
Et puis là, tu seras.
Nos
servi,
terrains sont toujours disponibles depuis que Lego a cancel son projet, donc très malheureusement, parce que apparemment en Belgique, c'est donc c'est le parc Spirou ou le Puy du Fou qui voudrait s'implanter dans le coin. Voilà. Donc
deux salles, deux ambiances.
Bon courage.
Ouais. Deux salles, deux ambiances.
Voilà. Mais c'était marrant parce que dans tous les malls, ça fuyait partout de la toiture. Il y avait des seaux, parfois des t-shirts de merchandising. Ouais. Et même à Ferrari, on s'est pris une averse, mais qui a été très courte. Mais la toiture, elle fuyait. Et puis à un endroit, elle goûtait sur des vrais Ferrari en exposition. Et donc, ils avaient mis des bâches pour protéger les voitures. Et puis, on a voulu faire des photos. Enfin, je crois que c'est toi, Seb. Hein. Il y a un employé qui surveillait les Ferrari qui est venu dire à Seb, non, mais tu supprimes ta photo.
Ouh là là.
Ça, c'est pas acceptable. Le toit de Ferrari One ne fuit pas.
Et surtout, on ne montre pas de Ferrari sous bâche. Ça n'existe pas.
C'est ça. Et donc, j'ai fait une photo en scred juste derrière. Et puis,
voilà. Est-ce qu'on va avoir des problèmes si on dit ça dans le podcast? Ils vont venir frapper à notre porte ou...
Je pense que Ferrari a extrêmement peur de la file d'attente et de son reach incroyable.
Tu te rappelles du dernier journaliste qui a dit du mal d'un régime du coin? Il a fini en plein de petites boîtes. Et puis...
bien.
Bah, vous avez passé un voyage fantastique.
On pourrait parler d'aquatique,
là. Et les gens sont gentils. Ah, c'est ça aussi hop. Qui est incroyable. Alors, en attendant les flops, les arnaques. Seb, est-ce que t'as une arnaque en particulier à nous communiquer?
Bah, on en a déjà parlé, hein. C'est les tyroliennes pas accessibles parce qu'on est trop grand. Ça, c'est une belle arnaque.
Tu t'es déjà fait tu t'es déjà fait une commotion cérébrale sur une, toi, t'en redemandes, quoi. Ça te freine pas, quoi.
C'est vrai. J'avais dit que j'en faisais plus jamais, mais l'appel du crédit était trop fort.
Peut-être, je ne sais pas, mais peut-être que ce choc t'a rendu un petit peu plus con aussi, on ne sait pas. Et que du coup, maintenant.
Bah, merci, je vous remercie.
Je ne sais pas.
Ah, bah, je reviendrai dans ce podcast, on se fait insulter. Non, mais c'est n'importe quoi. Eh ben, tu peux te brosser pour l'épisode Halloween, hein.
Non, c'est notre pilier. S'il y a une chose dans ce monde qui tourne, c'est bien cet épisode. Non, moi, je voulais vous poser la question parce que, donc, on a parlé de flotte et de pluie, mais, venons-en au parc aquatique parce que il y a de la grosse machine là, de ce côté-là aussi, là.
Il y a du matos.
Ouais.
Quel enchaînement.
Très fort.
Alors.
Top et flop, hein.
On en a visité deux. Alors, je ne sais pas si on peut parler de flop parce que tous les deux étaient très bien.
C'était top.
Plouf, une découverte. Oui, jolie. Une découverte pour tout le monde parce que c'est un tout nouveau parc et une découverte pour moi, j'y étais jamais, mais pour Julien, c'était une revisite. En l'occurrence, Aquaventure, qui est le parc aquatique de l'énorme complexe hôtelier Atlantis, qui est situé sur la fameuse palme, donc la fameuse île artificielle en forme de palmier, qui a été construite à Dubaï. Donc Atlantis, c'est un gros complexe hôtelier qui appartient à une grosse chaîne de complexes hôteliers qui a donc c'est la famille Kersner qui a Atlantis, les resorts Atlantis aux Bahamas. Il y en a en Chine maintenant et ils ont pas mal d'hôtels sans parc aquatique cette fois en Afrique du Sud et en Malaisie, il me semble.
Ouais.
Voilà, on a ce qui est vendu, et ce qui est certainement vrai, comme le plus grand parc aquatique du monde.
Rien que ça.
Donc c'est assez impressionnant en taille, avec des palmiers partout, donc c'est un super environnement, très tropical, très dépaysant. Et puis des très très beaux toboggans, il y a trois tours de toboggans principales. Qui est toute récente, qui a ouvert quoi, il y a 2 ans je crois, à peu près, sur lequel il y a des toboggans récents faits par le constructeur ProSlide. Les deux autres sont un peu moins récentes, mais pour autant c'est la tour la plus ancienne qui nous a le plus plu, une tour sur laquelle on trouve des Master Blasters. Donc des Master Blasters, c'est ces toboggans qu'on appelle aussi des water coasters, donc des toboggans où il y a des remontées où tu es propulsé soit par des aimants du magnétique, soit par des jets d'eau. Alors ici, en l'occurrence, c'est des jets d'eau. Et donc, ce qui permet d'avoir des toboggans qui ne font pas que descendre, mais aussi qui remontent, et d'avoir donc des toboggans aussi plus longs. Et ça, c'est vachement
génial.
Chouette. Et ça nous a beaucoup plu.
Et donc, quand tu dis tour...
Qu'il faut dire aussi à...
Vas-y, ouais, Julien, mais explique-le, parce que le principe de la tour de parc aquatique, c'est pas trop quelque chose qu'on a en Europe, j'ai l'impression, voire pas du tout, non?
Non, en Europe. Bah, après, si tu vas en Espagne, en Italie, disons qu'en Europe du Nord, on n'a pas vraiment le climat pour avoir des grands parcs aquatiques outdoor. Mais en Italie, en Espagne, ça se trouve. Et pour moi, le meilleur parc d'attractions, aquatique au monde est en Espagne, plus précisément aux Canaries.
Oui.
C'est Siam Park, mais je pense que Atlantis, c'est le numéro 2, quoi. Parce que outre les tours, donc parce qu'au total, chaque tour doit avoir 6 toboggans, entre 6 et 8 toboggans suivant les tours. Donc ça fait déjà 20 grands toboggans, enfin 24 dans ces eaux-là. Et ils ont aussi une immense Lazy River. Donc une rivière, je crois qu'il doit faire plus d'1 km de long. Donc on se met sur sa petite bouée, on se laisse traîner. Mais elle se sépare par endroits. Donc tu peux faire un tour complet où c'est que lent. Tu peux faire un tour où tu vas dans des vagues. En fait, t'as des générateurs de vagues qui te poussent. Et t'as aussi dans la rivière, t'as des lifts. Donc tu restes sur ta bouée, t'as comme un tapis de bouée au ski. qui te remonte, et puis après, tu as des rapides, en fait, derrière. Donc, tu as des séquences de
Ah,
rapides,
c'est
c'est du
génial.
volant, des séquences rapides, un autre lift, et tu peux faire, ouais, enfin, tu peux, le tour complet dure facile 30, 40 minutes, quoi. Et
Ah
avant,
ouais,
mais
à ce
ça a
point-là,
changé,
c'est ouf.
moi, quand je l'avais fait, ouais, non, c'est vraiment gigantesque. Et quand je l'avais fait, il y a longtemps maintenant, je crois en 2010, la première fois que je suis allé à Dubaï, la première tour, donc qui est celle où il y a les Master Blaster, était directement connectée à la Lazy River. C'est-à-dire que tu prenais dans la Lazy River, tu avais des intersections, et donc on disait, bah ça vous envoie sur tel toboggan. Tu avais une espèce de file d'attente, mais dans l'eau, c'est-à-dire tu restais sur ta bouée, tu montais pareil sur un tapis roulant qui te montait sur la tour de toboggan. Et t'arrivais, t'avais une intersection, donc t'avais un T, tu choisissais à gauche ou à droite, et t'allais vers un toboggan à gauche ou un toboggan à droite, qui te redescendait, et te réinjectait dans la Lazy River. Et pour aller au niveau 2, t'avais un autre tapis roulant avec des Master Blaster, qui te remontait au niveau 2, tu choisissais tes deux toboggans. Et en fait, tu pouvais rester dans ta bouée et tourner en boucle sur les différents toboggans. Mais je pense que pour des questions de flux, ils ont arrêté. Maintenant, t'es obligé de sortir de l'eau, de refaire une file d'attente pour prendre les toboggans, mais non, c'est vraiment.
Est-ce que...
Puis comme disait Seb, tous ces palmiers, c'est enfin l'environnement est topissime. Et voilà, on a passé une journée entière là-bas. On n'a pas refait beaucoup de toboggans parce qu'on n'a pas eu le temps, en fait, tellement il y en avait. Pourtant, on n'a pas trop fait la file. Mais enfin, on est resté quoi, de 9h30 à 17h30, je crois, et on s'est pas fait chier une seconde, quoi.
Génial.
C'est non, c'est vraiment
Moi, j'allais dire,
super,
est-ce
quoi.
que les
Eh
River,
bien.
c'est pas juste la meilleure attraction? Tout part confondu, moi, j'adore ça, les Lazy Rivers, surtout. Alors là, tu me dis qu'il y en a une qui dure 30 à
Mais parce
40
que t'es
minutes.
une grosse
Une grosse
feignasse.
loque à me mettre sur ma petite bouée là, à tranquillement me laisser porter. Non, vraiment, je trouve que c'est cool. Et surtout quand le décor, comme tu dis, est bien foutu, c'est vrai que sinon ça n'a pas grand intérêt. Mais tu te sens vraiment en
Ouais.
vacances. T'es dans une Lazy River, voilà, il n'y a pas plus chill que ça, quoi. Donc ouais.
D'autant plus que ces Lazy River là-bas ne sont pas que des simples Lazy River, puisqu'il y a aussi le
Oui.
côté rivière sauvage avec ses rapides qui sont vachement bien et qui mettent
Carrément.
du rythme dans tout ça.
À fond.
Et puis ce qui est aussi très très marquant dans ce parc aquatique et qu'on voit souvent en image, c'est qu'il y a des toboggans qui traversent un grand aquarium avec des requins et des raies manta. Il y a deux toboggans qui traversent ça, un toboggan en chute libre, donc un toboggan rapide, où là, bon, on a le temps de se rendre compte de rien, mais aussi un toboggan en bouée, où on arrive vraiment dans un canal tout de plexiglas vêtu, où on voit les raies qui se baladent autour de nous, les requins. C'est
Ah
vraiment
ouais.
très original et très 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 sympa.
C'est d'ailleurs l'attraction la plus populaire du parc, c'est le petit toboggan en bouée où t'as ce canal sous l'eau à la fin.
Très bien.
Mais
Après,
ce n'est pas le seul
on peut
parc
parler aussi
aquatique que l'on a
de
fait.
flop. On a
Et
eu un
l'autre,
flop
alors
aussi dans ce
ouais.
parc. Notre flop,
Ah,
c'est
pardon.
à la sortie du parc, plus de batterie dans la voiture. On avait oublié d'éteindre les lumières et donc on est resté 2 heures sur le parking du
Oh
parc.
non.
C'était génial.
Ah ouais, mais
Oh.
attends, les bagnoles, ça continue de vider leur batterie avec juste les phares, ça existe encore ça, je pensais.
Écoute, et
Ça
oui, et il
nous
existe
a
encore des
choqués.
bagnoles qui ne bipent pas quand vous êtes éteint tes phares ou qui n'ont
Bah
même pas
oui.
phare auto. Enfin, bon.
Oui, t'es
Ok.
en train d'accuser la voiture
Bah, c'était une
pour ton
voiture de
erreur,
loc, hein.
pour ton erreur, j'ai l'impression, en fait.
Bien
Voilà.
sûr, qui d'autre?
Et donc quoi, vous avez fait une bonne vieille pince croco, vous avez trouvé quelqu'un sur le parking et tout ça, ou quoi?
Ah bah,
Ouais, les
alors, on
pinces
a
croco, ça
trouvé
a été
quelqu'un.
efficace.
Ouais.
Ouais.
Et puis les pinces coco ont surchauffé, donc du
Oh
coup, elles se sont
putain,
pétées,
ok.
elles ont fondu.
Elles ont
Ah oui.
fondu.
Merde, quoi, le plastique autour là a fondu?
Ouais, et du coup, la pince s'est séparée du câble.
Sympa.
Ok.
Ah ouais.
Dangereux un peu, quelque
Dis
part.
donc, c'est bon, c'est de la bonne qualité ce que vous
Oui,
avez loué là,
ça
c'est
aurait pu
quoi?
péter.
Ouais.
Mais...
Ok. Bah,
Alors, c'était pas les
c'était pas
nôtres,
nos pinces.
c'était des gentils visiteurs qui ont bien voulu nous aider. Bah, ça
Ouais.
leur a pas réussi. Et puis
Vous
nous,
leur avez niqué
on
leur
est
pince
resté coincé, on a
croco,
dû
allez
appeler.
hop!
C'est ça. On a dû appeler l'agence
Ok.
Tiens, pour qu'ils viennent. Mais le gars qui est venu était très sympa. Ouais.
Et
Et
l'autre
l'autre, alors
parc,
vous avez dit que. Ouais, tout ça.
ouais, il y en
Sur
a un
le
deuxième.
thème de l'extraction de pétrole. C'est ça?
Alors du gaz,
De
pour être très précis,
gaz.
parce que c'était au Qatar, et le Qatar, c'est plutôt le
Pardon.
gaz là-bas.
Une tour, enfin, un parc dont on avait un peu parlé dans un épisode spécial parc aquatique, puisque c'était quand même un concept qui est pour le moins incongru. saugrenue, un parc sur le thème de l'extraction, où ce qui est drôle, c'est que tous les toboggans s'appellent, parce que j'ai regardé en préparation de cet épisode une vidéo qui nous a été envoyée par les soins de nos invités sur ce parc d'attraction, où tous les toboggans s'appellent Extractor ou Raffinator ou des trucs comme ça. J'aurais pas
pensé assister à ça dans ma vie. C'est un héros qu'on a envie de rencontrer, ça, dis donc.
Pourtant, ça a l'air quand même très très spectaculaire. Donc, c'est une tour qui ressemble littéralement à une tour d'extraction de pétrole, finalement. Mais que des toboggans, vous êtes allé dedans quand même.
Une verrue.
Non, mais
une verrue visuelle, quoi. Vraiment horrible à voir, je trouve.
Ouais, c'est, non, mais c'est l'objectif, c'est de représenter une plateforme d'extraction offshore. Ouais. Donc ça fait 85 mètres de haut, donc c'est très très très
85,
haut. C'est un peu déporté, donc
sachant qu'une tour de toboggan, une tour de toboggan classique, des grands toboggans genre Arlantica, c'est 20-25 mètres quoi. Après, il y a les plus grands qui montent à 40. Enfin, je crois le plus haut toboggan du monde avant celui-là, il devait faire 45 ou 50 mètres quoi. Donc là, ils ont.
Donc là, tu montes à l'ascenseur, j'imagine.
Tu dois aussi porter ta barque jusqu'à 85 mètres de haut là, comme un chien.
Et non, ça c'est l'avantage, c'est tout en ascenseur.
Ah oui, ok, ouais.
Tout en ascenseur, t'as 6 niveaux, l'ascenseur il s'est arrêté au 4, les deux derniers, il fallait se les faire à pattes. Ouais.
Regarde,
mais toutes les bouées sont remontées par des...
étages, ça va.
Non mais honnêtement, dans ce parc, parce que ce parc a une tour de 85 mètres, et derrière t'as encore 7 autres tours de toboggan, et elles seront à chaque fois pas petites. Je sais pas combien on a fait en dénivelé positif dans ce parc aquatique, mais on a bien crapahuté. Hein.
Du coup, les toboggans, quand ils démarrent à 85 mètres de haut, moi, je veux savoir s'ils sont bien, parce que ça a l'air bien, en vrai.
Bah alors, tu as à 85 mètres de haut, tu as que les deux body slides, donc les toboggans sans bouée, dans lequel ils te donnent aussi ce qu'ils appellent des jetpacks, donc une espèce de planche que tu te mets dans le dos comme un sac à dos, qui a l'avantage de te permettre de ne pas ressentir les jointures entre les différentes parties du toboggan, donc ça c'est plutôt fléau.
Et tu les ressens quand même.
Oui.
Tu les ressens quand même, mais ça ne fait pas mal quoi. Ouais. Tu sens les transitions entre les bouts de tube, et t'es très content d'avoir ton jetpack.
Excuse-moi Seb, ces toboggans là, c'est des toboggans à trappe, c'est ça hein. Tu démarres à la verticale.
Il y en avait.
Il y a un à trappe.
Classique. C'est toi qui te lance. Et donc si on n'a pas ce jetpack, cette planche dans le dos, on voyait d'autres visiteurs qui avaient décidé de pas l'utiliser. Ils étaient rouges, mais vraiment dans le dos, c'était plein de marques. C'était,
c'est idiot,
c'était pas beau à voir.
Quoi, ils se croyaient malins de se dire ouais, moi j'ai pas besoin de ça quoi.
En même temps, ils en ont pas énormément. J'ai pas bien compris leur système.
Je pensais que ce serait obligatoire un process comme ça, mais bon bref.
Bah ouais, bizarre.
Et donc, en fait, du coup, du sommet, je crois que c'est pas 85 mètres, c'est vraiment le sommet de la tour, la plateforme, je crois qu'elle est à 75, un truc comme ça. Et donc là, t'as donc ces deux body slides, c'est les seuls toboggans de la tour qui descendent de haut en bas, enfin, qui descendent, d'une traîne jusqu'en bas, d'un bloc, ouais. Il y en a un des deux, celui qui part en trappe, lui, il pulse, mais comme, ce genre de toboggan en trappe, genre celui qui a Rolantica ou ce genre de choses, généralement, ça dure, je sais pas, 10 secondes. Là, ça dure 35 secondes. Et franchement, c'est impressionnant parce que tu bardes tout du long et tu te prends plein d'eau plein la gueule. Et puis, j'ai vraiment bien.
Rassurez-moi, c'est quand même pas ligne droite extrêmement pentue. Quand tu...
Non, c'est en spirale.
Il y a quand même plusieurs.
C'est des spirales.
Oui, ok, plusieurs dénivelés. Oui, ok, très bien. Parce que sinon, c'est...
Oui,
on meurt sinon.
ça tourne tout autour de la tour, et c'est pas alors t'as une grosse descente au début, et puis après, c'est des choses beaucoup plus plates, avec de temps en temps des petites descentes pour reprendre un peu de vitesse, mais t'es pas en chute libre tout du long, sinon, non, ce n'est pas possible.
Ce n'est pas possible.
Et les toboggans, donc, ils ont l'avantage, comme ils débarrent aussi haut, d'être très très, plus long que la moyenne, mais ils ont l'air aussi de proposer quelques éléments assez sympas avec des retours en... Ah, j'ai vu des toboggans avec des projections médias. Incroyable.
Oui.
Oui.
Ah. Donc t'as les deux toboggans, donc les body slides qui partent de tout en haut, mais après ça, la tour au total elle a 12 toboggans, donc il y a les deux body slides, et après en fait t'as des toboggans en bouée 2 et en bouée 3 places, Et à chaque fois, ce qui se passe, c'est que les toboggans donc partent d'un certain niveau en duo. T'as genre t'as deux toboggans à bouée de place ensemble qui partent et qui vont redescendre jusqu'à un niveau intermédiaire. Ils vont rentrer dans une piscine. Et puis là, il va avoir les deux suivants qui partent. Mais si t'as envie, si t'as fait, je sais pas, le toboggan de droite et t'as envie de partir à gauche, tu
D'accord.
peux switcher. Et là, la deuxième partie descend jusqu'en
Trop
bas.
bien.
Donc en fait, t'as quatre toboggans qui descendent la tour en deux temps, et ça avec des bouées de place, avec des bouées quatre places, des bouées trois places. Et avec, oui, des éléments spéciaux. Effectivement, il y en a un qui a un espèce de gros entonnoir à plat, là où il y a des projections de, je sais plus, de requins et d'animaux marins. Bon, c'est un peu gadget,
Un
mais
tout petit peu.
c'est rigolo. Voilà, c'est un peu gadget. Mais en fait, le problème sur ces toboggans, enfin, ceux en bouée, au final, c'est qu'au bout d'un moment, c'est presque trop long. On a trouvé enfin, la descente, je sais pas, dure 1 minute 30 à chaque fois. Et c'est beaucoup de virages. T'as un virage à gauche, un virage à droite, un virage à gauche, un virage à droite, une
Ouais.
spirale, un virage à gauche, un virage à droite. Et au bout d'un moment, bah, t'as compris, ça prend jamais vraiment.
Mais
Il
tu
y a des
bois la
rares
tasse
moments
de
où ça
ouf,
prend un peu
hein.
de vitesse. Non, oh non, non,
Bon.
ils sont assez gentils, les toboggans.
Ok.
Et t'as parfois un peu d'accélération, mais ça décélère très vite. Et ouais, en fait, au bout d'un moment, t'es là, ouais, ok, c'est bon, j'ai compris, quoi. C'est,
Genre
bah,
arrêtez, quoi.
bah, c'est ça, il y en a marre, quoi. Non, mais tu vois, par exemple, là, bah, je reviens sur l'Antica, ils ont un toboggan en bouée de place, celui qui n'a pas d'élément spécial dans la tour de la glace, là, que Seb va se faire un plaisir de me nommer. Comment il s'appelle, celui-là?
Tvafal.
Reste poli quand même, attention.
Tvafal.
Hein.
Ah, mais c'est un A avec un rond dessus, non?
Oui.
Ah, ben, le A avec un
Tvofal.
rond dessus, ça te dit pas A, ça se dit Osh, ou un truc
Tvofal.
comme ça.
Tvofal.
Tvafal. Tvafal, ouais. Bref. Mais toi, qui est beaucoup plus sympa, parce que, bah, déjà, il va un peu plus vite, et puis t'as des petites cassures sans arrêt au fur et à mesure de la descente. Enfin, bref, ça maintient un peu le rythme. Là, ça manque de rythme,
Ouais, c'est très
Mais
répétitif.
entre les
Ouais,
deux
voilà.
parcs qui ont quand même des concepts très différents, il y en a un qui est plus sur la quantité, la hauteur de la tour qui est peut-être un peu plus sensationnelle, et l'autre qui est plus orienté sur l'immersion et la thématique. En fait, vous avez préféré lequel des deux? Parce que est-ce que
Clairement,
quand même?
Atlantis, clairement,
Atlantis, ouais.
on s'est plus s'amusé à Aquaventure Atlantis. Parce qu'il y a plus de choses originales, les toboggans sont plus courts et partent de moins haut, mais ouais, ils sont beaucoup plus fun.
L'autre, c'est un
Enfin,
peu plus la...
j'ai compté à donc ça s'appelle Meria, le
Ouais.
parc à Doha, le parc à côté avec la tour à 400 mètres. Il y a, je crois, 26 toboggans, 26 grands toboggans différents. Donc il y a 7 tours plus la tour de 85 mètres. Donc c'est, je pense pas qu'il y ait d'autres parcs au monde qui aient autant de grands toboggans. Je pense Atlantis en a plus, mais ils ont beaucoup de petits toboggans aussi pour les enfants. Donc quand tu additionnes tout
Ouais.
ça, ils sont peut-être un peu au-dessus. Mais c'est vrai que à Merial, après avoir fait tous les toboggans, ce qui nous a pris quand même, enfin rien que sur la grande tour, je pense qu'on a passé 1 heure et demie à faire tous les toboggans. Bah il y en a pas tant que ça que t'as envie de refaire, quoi. Il y en a un ou deux qui sont vraiment sympas. Et puis le reste, là, ouais, ok, ils sont sympas, mais bon, pas.
Ouais.
Ouais, il n'y a pas vraiment de surprise, quoi. Même s'ils ont tous les types d'éléments, enfin.
Et
Ouais,
puis
alors qu'à Atlantis,
on n'a pas encore
t'as plus
parlé
de
de
surprises.
Amerial, de leur toboggan hyper original, le slide wheel. Il y
Ah
en a, je
oui, bah
crois,
oui.
trois ou quatre
Quatre dans
exemplaires
le
dans le
monde.
monde. Donc c'est une espèce
Quatre, je
de
crois.
grande roue. C'est un truc que vous avez certainement vu passer
Ah oui.
en
Ouais.
vidéo. Une
Ouais.
espèce de grande roue avec un gloubi-boulga de toboggan. Tu comprends pas ce qui se passe, que tu sois dehors ou dedans, mais ça permet de faire un toboggan assez long. C'est assez original, c'est pas le plus excitant non plus par contre, mais ça permet d'avoir un parcours hyper long, en faisant beaucoup de va-et-vient jusqu'à ce que la roue tourne pour te faire continuer le parcours, puis tu retournes dans un espèce d'entonnoir en attendant que ça continue à tourner. C'est
En
original.
fait, t'es enfermé dans un
Bah c'est un
tuyau
peu
qui est
ouais.
sans fin
Ouais,
quand la roue tourne, quoi.
c'est pas trop comment dire claustrophobiant cette
Anxiogène.
histoire.
Ah oui, c'était claustro, oui, n'y va pas.
Ouais, non, je le
Un
suis
peu,
pas,
ouais.
mais je le demande
Après,
parce que ouais, c'est quand t'es complètement
c'est
enfermé.
très, enfin, tu perds complètement tes repères,
Ouais.
c'est
Ouais.
hyper déstabilisant. Mais ça m'a rappelé un peu la slide wheel, pas la slide wheel, la coaster wheel comme t'as à California Adventure. C'est-à-dire ce concept de bah, ton wagon monte, 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 et au bout d'un moment, bah, le rail repart vers le bas, parce que la roue tourne, et hop, tu descends, tu fais quelques allers-retours, ça se stabilise, ça continue à tourner, donc ton wagon remonte. C'est en fait c'est le même principe quoi. Et au final, la roue, je sais pas, elle doit faire une vingtaine de mètres de diamètre, quelque chose comme ça. Mais tu restes toujours en fait dans la partie basse, voire légèrement au-dessus du moyeu, parce que tu rentres et tu sors de la roue au même niveau, c'est-à-dire au centre, à l'axe, dans le moyeu quoi. Mais au final, tu ne restes toujours bah, plus ou moins au niveau du moyeu et en dessous quoi. Tu n'arrives jamais tout en haut de la roue, mais dans le tube, tu t'en rends pas du tout compte. Mais c'est vrai que je trouve que ça aurait peut-être été marrant qu'ils mettent un peu de tube transparent par moment pour que tu vois où t'es, tu vois, et que tu vois l'extérieur, et que ceux aussi qui sont à l'extérieur voient la bouée qui se balade. Parce que quand t'es à l'extérieur du toboggan, enfin, quand t'es spectateur, tu vois juste une roue qui tourne en continu, mais c'est tout, quoi. Donc voilà, messieurs les concepteurs de Whitewater, un peu de tube acrylique. Merci.
Mais d'ailleurs, j'ai vu qu'il y avait un.
Et une
Vas-y, vas-y, Seb, je t'en prie.
autre particularité de ce parc aquatique de Mériel, c'est qu'il a aussi un coaster, un spinning coaster Intamin, mais qui n'est pas encore ouvert pour le visiteur. Il faut savoir que le parc Mériel, il est tout neuf, hein, il a ouvert fin novembre 2023, même s'il devait ouvrir un an avant pour être prêt pour la Coupe du Monde. Bon, bah, c'était trop tard, c'était raté. Il est
Presque,
ouvert donc
presque. Ils ont pas grand-chose.
Ouais.
Un an près, ouais.
Un an, ça va. Donc ouais, ils ont ouvert en novembre, donc ça fait quoi? Ça fait 4 mois. Donc il y a quelques attractions, les attractions mécaniques qui sont pas encore ouvertes. Donc il y a ce coaster, il y a un Shoot the Chute, donc les gros bateaux dans les gros canals type
Ouais.
Tutuki à Port Aventura, et un ou deux monorails qui permettent de se déplacer à travers le parc.
Ouais, d'ailleurs, en parlant des monorails, ce qui était assez marrant, c'est que la tour de 85 mètres, en fait, elle est sur une presqu'île qui est séparée du reste du parc par une, enfin, il y a une digue, en fait, pour y aller. Je sais pas, il y a 200, 250 mètres pour y aller. Et donc, normalement, t'as un train qui permet de connecter le parc, enfin, le reste du parc à cette tour. Et donc là, bon, il fonctionnait pas. Donc, à la place, ils ont mis des golfettes. En fait, pour y aller, tu montes dans une golfette, une petite golfette. Et puis, ils t'emmènent, quoi, t'as ton chauffeur qui t'emmène jusqu'au pied de la tour.
Bah, c'est pas
Et bon,
mal.
t'as, je sais pas, il y avait 5 golfettes qui tournaient, enfin, qui tournaient, qui attendaient, parce qu'il y avait tellement personne que voilà, mais ouais, c'était assez improbable aussi, mais bon, il faut dire que aux Émirats, et si je rajoute au Qatar, donc dans ce qu'on a dans la partie qu'on a visité, il y a 4 grands parcs aquatiques. Donc il y a Mériel à Doha, enfin à côté de Doha, et puis aux Émirats il y a Yas Waterworld à Yas Island, donc à Abu Dhabi. Il y a Atlantis à Dubaï, il y a aussi Wild Wadi à Dubaï, qui est le plus vieux parc aquatique du coin, mais qui est franchement assez sympa aussi, avec un concept de rivière et de Master Blaster qui s'enchaînent les uns derrière les autres. Honnêtement, t'as 4 parcs aquatiques qui sont pour moi facile dans le top 10 des meilleurs parcs que j'ai visités, quoi. Je pense que je peux même dire top 5, parce que ouais, allez, peut-être, ouais.
Dans le top 10 des
Mais
parcs
tu mets si un parc
aquatiques,
devant, et puis
tu veux dire des parcs
ouais.
d'attractions, et ils sont dans ton top 10.
Non, des parcs
D'accord.
aquatiques.
Soyons
Ouais.
précis.
Non, ça, dans le golfe, t'as vraiment des très, 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 très beaux parcs aquatiques.
Oui, il
Avec
y a
une offre top.
dans son top, tu mets Siam Park, tu mets Rulantica, évidemment,
Évidemment.
et
Bien
tu
entendu,
mets
Aqualibi.
les
L'Aqualibi.
quatre les
L'Aqualibi.
Émirats.
L'Aqualibi, et après les
Voilà,
autres,
ouais,
mais.
tout à fait.
Ah, et Belward Aquapark, pardon.
Oui, bon, si vous commencez à tous
Je...
faire la... On va clôturer, les amis, hein, si c'est comme ça que ça se passe. Est-ce que y aurait un top ou flop dont on n'aurait pas encore parlé, que vous avez envie d'aborder, ou est-ce qu'on aurait tout... Parce qu'évidemment, on pourrait faire un épisode qui dure 6 heures, hein, parce que vous avez fait 23 parcs d'attraction. Mais en
Peut-être
termes
la
de...
bouffe, hein, vraiment en une seconde, parce que ça, c'est un truc qu'on aime bien, dont on aime bien parler.
C'est vrai.
Et on va finir là-dessus.
Rien de
Rien,
super
rien.
marquant en
Est-ce que
bouffe.
vous
Ok.
avez eu la tourista d'abord, la petite gastro du voyage, vous
Ah
l'avez
bah
eu?
oui,
Non?
ça il faut.
Non, tout va bien.
Non,
Personne?
non, non, non.
On est, non,
Non,
des,
c'est très
rien du
civilisé. Tout va bien, on
tout. Ouais.
mange bien, on boit bien, tout va bien. Non,
Pas d'alcool, on
en...
boit bien de l'eau, hein. Enfin, ou des jus de
Oui.
fruits,
Ah bah oui, du coup là-bas c'est pas
L'alcool.
trop la grosse. La grosse, grosse murge.
Faut bon, aller après, dans, c'est... dans les hôtels.
Si tu vas dans les grands
occidentaux,
hôtels.
Ouais.
Tu peux trouver des petites bières ou des beaux cocktails.
Ouais, mais des bières, ah ouais, à 20 balles la petite bouteille, quoi.
À 10
15 balles,
ouais, ouais, 10, 15.
et généralement, c'est pas de la bière de grande qualité.
Ouais, ouais. Donc pas de bouffe et même dans les parcs, pas des trucs un peu foufou, thématisés ou quoi.
Assez classique, le seul truc un peu notable, c'est à SeaWorld, où on a mangé avec une vue panoramique sur les pingouins. C'était sympa.
Ouais.
Et moi, à Warner, j'ai mangé dans un resto à table qui était pas trop mal. Je me suis pris une escalope de veau à la truffe.
Mais tiens,
c'était bien.
Ah ouais.
Rien que ça. Ok.
Oh, c'est plaisir, hein. Alors, quand on n'est pas là, paf, monsieur.
Ça rame des truffes, sur tous les plats. et toi?
Si, et on peut parler de notre highlight food, Julien, notre resto.
Détomber les pieds en Asie. Voilà.
C'est quoi?
Mais qui n'est pas du tout dans un parc, c'est le Din Tai Fung, un resto chinois de dumpling, de boucher vapeur qui est, extraordinaire.
T'appelles ça des petites bouchées vapeur, toi? C'est très bien, ça, des bouchées vapeur.
C'est taïwanais.
Taïwanais, il me semble, Din Tai Fung. D'ailleurs, il y en a à Londres. Je crois qu'il y en a, deux ou trois à Londres. Il y en a à Covent Garden, et puis il y en a, je crois, Tottenham Court.
Eh ben, tu me donneras le nom.
Alors, Din Tai Fung, donc D-I-N, plus loin T-A-I, plus loin F-U-N-G. Il y en a quasi partout en Asie. Il y en a à Dubaï, je crois, il y en a deux, trois à Dubaï. Il y en a aux États-Unis plutôt côte ouest. Mais alors aux États-Unis, ça coûte là.
Ouais, ça a l'air un peu fancy quand
et,
même.
Et je crois en Europe, ouais. En Europe, le seul qu'il y a, c'est à Londres. Enfin, les seuls qu'il y a, c'est à Londres. Et donc, nous recommandons particulièrement les raviolis à la truffe, enfin les dumplings à la truffe. C'est une tuerie.
On ne refuse rien. Écoute,
mais c'est vrai que quand tu vas manger au Din Tai Fung en Chine, c'est pas le même prix que quand tu vas manger au Din Tai Fung à Los Angeles.
Ah ouais.
Voilà. tu fais x10.
Ouais.
Bon.
Et je pense qu'à Londres, on est plus proche de Los Angeles que de Pékin.
Et un petit flop, ouais, du truc le plus dégueu que vous avez bouffé, Non?
Il y a pas eu de...
Attendez, vous avez fait un parc dans 23 parcs.
Un bon burger, un bon petit burger.
Et vous êtes en train
de forcément manger.
Après. On n'a pas mangé dans les 20. Bon, je pense la moins bonne bouffe de parc pour moi c'était Atlantis. Ça pour le coup c'était pas fou.
Oui, parce que finalement on n'a pas mangé dans énormément de parcs.
On a mangé à SeaWorld.
Et
Motion Gate.
Et Atlantis. Mais... Ah oui, Motion Gate aussi. Mais... Dans tous les autres.
Merial, c'était pas mal.
Ah oui, Merial.
Bon, c'était des
pâtes. Non, c'était pas.
Ouais.
Il y a pas un consensus sur la bouffe.
Après, t'avais fait un mauvais choix, c'est différent.
Ah, ça va être.
Connais-le. Voilà, bah oui.
Non, ouais, après, sur les autres jours, comme on faisait des petits parcs, on bougeait beaucoup, donc on allait dans des restos plus classiques.
Ouais, on mangeait dans les malls.
Dans les villes ou dans les
malls. D'accord. Ce qui est peut-être un bon conseil, en fait, plutôt que de bouffer de la bouffe de parc, dégueulasse.
De toute façon, après, tu vas dans tous ces petits FEC, donc c'est Family Entertainment Center. T'as pas de restaurant, au pire.
Wow.
Ouais, t'as vu. T'as pas de restaurant, t'as juste un petit kiosque qui vend des cochonneries sucrées, des glaces et ce genre de choses. Okay. Les restaurants, tu les as que dans les grands parcs. Mais c'est vrai qu'à Yas, c'est plutôt pas mal la bouffe. Enfin, moi, j'ai un bon souvenir effectivement de Warner. Je sais qu'à Ferrari, il y a un resto qui est plutôt pas mal, un service à table. SeaWorld, c'était bien, pas extraordinaire.
Ouais, après, on a fast food qui c'est plus pour la vue que pour la bouffe.
C'est ça.
C'était correct, mais pas extraordinaire. Mais j'imagine
qu'il doit
y avoir des beaux restaurants.
Bah, ils avaient un restaurant fancy. Enfin, en tout cas, on est passé devant, il y avait des nappes, des serviettes en tissu. Donc, je considère que c'est fancy.
C'est le gage de qualité.
Et puis de la vaisselle en porcelaine, voilà, couvert en inox, c'est bonique. Mais alors, l'endroit.
Ça avait l'air d'être
le resto le plus, mais l'endroit était nul. Mais tu te rappelles pas, c'était le resto, il était dans l'allée. Alors il donnait sur l'aquarium, le tout grand aquarium, mais il y avait une salle à l'arrière qui était hyper basse de plafond, qui était hyper glauque. C'était vraiment, enfin t'avais l'impression, enfin tu disais mais ça c'était une salle de resto pour un fast food, pas pour un service à table quoi.
Ouais, ça faisait cantine du Futuroscope.
Ah. C'est toi qui l'as dit.
Ok.
J'ai failli dire Canting de Roulantica, mais je me suis
retenu. On va essayer de pas vous attirer des problèmes. Voilà, on va rendre l'antenne.
en tout cas,
tu vas te prendre un rappel à l'ordre là, comme la dernière fois.
En tout cas, ça nous fait super plaisir à la file d'attente de vous offrir le budget pour
Excusez-moi, c'est déjà fini.
On est à 2 heures déjà d'épisode.
Ça fait que 2 heures qu'on enregistre.
Oh mon Dieu.
Et on peut faire.
Non, mais on est déjà demain en fait là, ouais. C'est ça.
Après-demain. J'en ai bien peur.
Presque.
C'est quoi le record? À chaque fois, on dit qu'on va battre le record.
C'est vrai.
Il me semble que c'était 2h45 avec Valoche qui nous a fait un...
Allez, on reste.
Allez, parlons
c'était pas avec
de.
Julien, j'aurais parlé sur Julien, moi, en épisode le plus long, non?
C'est vrai qu'on n'a pas parlé de Gondolania et puis de Trocadéro et puis de Sparkies.
Eh bien, je vous propose un épisode 2, évidemment.
Les Magic Planet, ouais, c'est ça. Voilà, c'est ça.
Tous les parcs
dont on n'a pas parlé, dont de toute façon ça servait à rien qu'on parle.
C'est vrai que voilà. En fait, si on fait un épisode sur les tops et les flops, il y a tous ceux du milieu qui sont juste médiocres dont on ne parle pas. Voilà.
Eh oui, c'est le principe.
Ah, les pauvres. Bah oui, ça c'est.
Eh ben il fallait être plus mauvais ou meilleur. Voilà, tout simplement. Écoutez, merci infiniment d'être venu nous parler de ces 23 parcs. C'est fou, je n'arrive pas à le croire.
Non mais 26 pour ces bichous.
26.
Après, c'est qu'on peut vraiment parler de parc dans tous les cas? Pas forcément. Enfin, voilà, on peut pas comparer un Universal
c'est comme avec les crédits, une tyrolienne sur rail, enfin un zipline coaster, c'est la même chose qu'un vélocicoaster.
C'est vous qui nous avez dit que c'était des parcs.
Un crédit est un crédit.
Ah, c'est un crédit. Un parc est un parc.
Un restaurant avec un coaster à l'intérieur. Bon, c'est vous qui avez fait le compte, les gars. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez des trucs dont vous avez envie de faire la promo avant qu'on se quitte, Julien? Il me semble que t'as publié des trucs sur Trips and Peaks récemment, je crois.
Sans doute. Bah écoute, il y aura un Trip Report un jour. Voilà, je peux l'annoncer en exclusivité mondiale. Il y aura un Trip Report un jour. Quand? Eh ben, on verra bien.
C'est ça.
Parce que je ne suis pas, je suis un peu comme lui, je suis pas mal dans la procrastination et
oui, bah ça sort quand même plus régulièrement. Hein.
Oui, c'est vrai. J'essaie parfois un peu quand même de me booster, mais j'ai déjà écrit 3,5 chapitres là sur la dizaine que je prévois, donc ça
ah, un tiers, on est bien.
Je me suis mis un petit
goal.
Mais là, je crois que j'ai fait Mérial, je crois que j'ai fait 5 pages Word là. Je me suis bien étalé.
5 pages Word, c'est beaucoup.
C'est dire que ce parc est grand.
Ouais.
Ben, ouais.
On ira voir ça.
Est-ce qu'il y a des blagues pourries?
C'est pas le genre de la maison.
Ouais.
Des jeux de mots?
Je crois. Attends, super jeu de mots. Alors là, il faut quand même que j'en parle le top toilette, parce que, les toilettes, c'est
un truc
aussi. Je partage cette passion du pipi toutes les 5 minutes avec Louis. À Motion Gate, donc dans la zone Now You See Me, donc comment ça s'appelle en français ça, Insaisissable. Donc le film se passe à Las Vegas et donc le coaster est au bout d'une rue qui évoque Fremont Street à Las Vegas, donc il y a cette rue avec l'écran au plafond. Et c'est une rue, il n'y a rien, c'est très triste. Enfin, il y a des décors, mais tout est inerte, on peut pas rentrer dans les façades, etc. Il y a juste un bloc toilette et ce bloc toilette s'appelle Royal Flush. Et voilà, et ça m'a fait ma journée. Parce que flush, je traduis en français, c'est la chasse d'eau en français, et donc Royal Flush, qui est la quinte royale en langage poker. Et voilà.
On va.
Et j'étais content. Il me faut pas grand chose.
On mettra un petit pelumba, un petit.
Que Julien.
Et j'ai aussi vu un jeu de mots dans le même parc, mais que j'avais déjà vu à Disney California Adventure dans la zone Hollywood. C'est un stand de hot dog avec supporting role.
Mais attends, on va t'inviter à un podcast avec Nagla Glaçon et on va parler des spéciales jeux de mots, parce que là, vous êtes fait pour vous entendre. Très bien. Ben écoute, à toi de nous faire un petit quiz spécial jeu de mots de parc sur Trips and Peaks, pourquoi pas.
Ça c'est une bonne idée. Ah bah attends, je la note.
80% de parc Astérix dans ce quiz. et toi Seb, est-ce que t'as un truc que t'as envie de faire la promo, un truc dont tu as envie de faire la promo?
Je
n'ai pas ton employeur, s'il te plaît.
Je n'ai pas, non, donc non, rien de particulier.
Ah bah, écoute,
ton site web, c'était ton terrain de jeu, sans quand même tous les réseaux d'Europa Park, on peut aller vous suivre un peu partout, quoi.
Oui, si vous voulez.
Oh, ils sont pas très actifs. Hein, les encouragez
ils
pas.
Ils donnent énormément de sa personne.
Attends. Ça donne envie. Ok, très bien.
Attends de nous voir demain sur Twitter.
Quand ils mangent des water coasters et puis qu'ils les.
Bon, au moment où on publiera l'épisode, la conférence de presse annuelle d'Europa Park aura quasiment une semaine de parce que on s'y prend très à l'avance cette fois-ci. On essaye de
démarrer
les choses. C'est très rare,
c'est
ça. Dis donc.
C'est 2024. Encore merci les amis d'être venus. C'était très très cool de partager ça avec nous. Vraiment merci.
Bah, c'est toujours un plaisir
merci de, invité,
de discuter avec vous. Rendez-vous pour Halloween.
Oui. Eh, ça se rapproche quand même, hein, mine
on
de
le
rien.
Sortira de son placard. Bah, merci à vous. Oui, Julien, toi, on te dit à bientôt. On ne sait pas encore quand ni quoi, mais tu sais que. Hein...
Bon, la semaine prochaine.
C'est à peu près ça.
Ouais. Idée, ouais. Il a le lien. Voilà. Il s'invite. Parfois, on est là tous les deux. Paf, il y a un invité qui arrive sur le lien et c'est Julien. Oui. Et puis voilà.
Voilà.
On le garde.
On se dit bon, mais tu sais quoi, on ouvre les micros.
C'est Julien, tu vois. Lien, Julien.
Oh là là. Bon, on va aller le coucher.
Allez, on va se coucher.
C'est l'heure d'y aller.
On arrête.
Bon. On se retrouve alors
allez,
très bientôt. Oui,
soirée.
N'hésitez pas à nous mettre des étoiles sur les réseaux, sur Spotify.
La question
Spotify. Quelle question pose nos écouteurs à nos éditeurs? Oh, j'arrive plus.
Quel parc aurait-il envie de visiter? Quel parc aurait-il envie de visiter dans le golfe persique, par exemple?
Ou quelle attraction ou quel slide leur fait le plus de l'œil, peut-être? Voilà. Dites-nous ce qui vous attire dans.
Êtes-vous toboggan aquatique ou pas?
Oui, toboggan aquatique.
Toboggan
fil.
Voilà.
Oui.
Plutôt moule beat ou
vous a donné envie d'y aller?
Vous n'avez pas déjà posé ça? Est-ce que vous êtes plutôt moule beat ou maillot dans?
Bizarrement, je crois que si.
Oui, hein.
Ouais. Alors, allez-y.
Pour là-bas, c'est plutôt burkini ou.
Ouais, j'imagine que t'étais en.
Deux pièces, ouais. Tu vois.
Toi, vous étiez en quoi alors?
Vous savez quoi?
Sondage ici? Julien, slip ou caleçon?
Non, plutôt caleçon.
Ouais,
short, ouais.
Short, ok, très bien. Très bien, très bien. Eh bien, on finit, mais vraiment en beauté, voilà. Ce podcast.
Le bouquet final.
Vraiment.
Eh bien, dans ce cas, on se retrouve très prochainement dans une nouvelle file d'attente. À bientôt.
À bientôt. Salut.
La bise.